Bonjour à tous, bienvenue sur le Comic City numéro 67, Comic City du mois de mai. On va chroniquer donc les sorties VF du mois de mai. Avec moi cette fois-ci, Corwin.
Bonjour tout le monde.
Et encore une fois que Corwin, puisque Benny a malheureusement eu un petit problème familial qui l'empêche de pouvoir se libérer pour enregistrer avec nous. Il sera d'ailleurs pas présent pour le prochain Comics Weekly non plus. Mais on va assurer le quota de blagues et le quota de review sans lui.
Tout à fait, on est chaud. On est chaud bouillant parce qu'il fait chaud dehors.
Ouais, alors d'ailleurs vous entendrez peut-être quelques petits bruits tout au long de ce podcast, parce qu'il fait tellement chaud qu'on est obligé de garder les fenêtres ouvertes, que ce soit Corwin comme moi, et donc malheureusement on ne peut pas contrôler les événements qui se passent à l'extérieur, comme les voitures, les gens qui passent en rigolant, etc. etc.
Et puis c'est mercredi, c'est le jour des enfants, donc il y a pas mal de gamins dehors.
Ah oui, c'est vrai qu'on est mercredi. Ouais, ça explique pourquoi je vois autant de gamins passer en vélo. Effectivement. Je comprends mieux maintenant.
Ouais.
Mais ils vont pas à l'école, ces petits cons.
Eh ben non.
Eh bien, on va faire un petit peu de tout, hein. On va parler un petit peu d'Urban, un petit peu beaucoup, même de Panini. Pas de Delcourt ni de Milady, hein, cette fois-ci. Puis on va commencer comme d'habitude avec des news.
Ben, tout à fait.
Mais avant cela, petite question pour toi, Corwin. Comment s'est passé ton voyage?
Eh ben, mon voyage s'est super bien passé. Alors, je sais bien qu'on est dans une émission de comics, que j'étais au pays des mangas, mais n'empêche que je vous encourage à y aller. C'est vraiment magnifique, c'est joli, les gens sont sympas. Vous pouvez aussi voir du gros what the fuck à Tokyo, si vous allez dans le quartier d'Akihabara, il y a de quoi se marrer. Moi, j'ai pris en photo Dark Vador à côté de Hello Kitty, par exemple, pour vous donner une idée. Voilà,
le mélange des
cultures. Pas plus.
J'ai quand même une question à te poser, je pense la question qui brûle les lèvres de tout le monde. As-tu été visiter Fukushima?
Eh bien non, non, j'ai pas fait le nuclear tour, j'ai pas fait ni Fukushima, ni Hiroshima, ni Nagasaki.
Je pense que c'est quand même les choses qu'il vaut mieux éviter d'aller voir, ça sert un petit peu à rien, quoi.
À Hiroshima, à ce qui paraît, il y a un super beau site de commémoration et ça vaut vraiment le coup. Je pense qu'on ira peut-être pour une prochaine fois.
Donc tu as l'intention d'y retourner?
Ouais.
J'ai preuve que ça t'a plu.
Donc, faut que j'y retourne.
Bon, eh bien, on va passer du coup aux news. Et on commence les news avec quelques petites annonces du côté des sorties Panini pour les prochains mois. Mm-hmm. Alors, un petit peu dans le désordre, hein, du côté de la gamme Fusion, la gamme qui est donc autre chose que le Marvel, nous allons retrouver d'ici le mois de novembre la Nuit des Morts-Vivants, qui aura un nouveau volume, hein, qui est sorti le mois dernier, un nouveau volume de Gravel, qui était sorti aussi le mois dernier, et un nouveau volume de The Boys, dont un est sorti ce mois-ci.
J'ai vu qu'il y avait Buffy Classique 8, saison 3, qui était prévu également. Alors, j'ai pas la date.
C'est pour le mois prochain, oui. C'est pour le mois prochain.
C'est pour le mois prochain.
On aura en novembre aussi la suite de Buffy saison 9, de La Tour Sombre et de Kick-Ass numéro 2, qui sort le mois prochain. Enfin, en tout cas, ce mois-ci, au moment où vous écouterez le podcast, puisque nous enregistrons le 30 mai, hein, j'ai oublié de le préciser. Et pour terminer la gamme Fusion, en octobre, il y aura Vampirella classique, avec du Millar, du Morrison et du Amanda Conner, et du Elric, la mini-série The Balance Lost de Chris Robertson.
Et donc, beaucoup de bikinis avec Vampirella.
Alors par contre, ils annoncent Elric The Balance Lost comme une mini-série. Il y en a déjà au moins 11 épisodes aux États-Unis, donc je vois pas trop en quoi c'est une mini-série.
Il n'y avait plus trop mini, ouais, effectivement.
À rigueur, c'est une maxi, mais je me demande si c'est pas une série régulière. Mais enfin, bon. Pour octobre, un deluxe de The Boys est prévu, hein, la suite de ce qui est sorti justement, là encore une fois, le mois dernier. 400 pages.
Donc, encore un beau bébé, quoi.
Voilà, encore un beau bébé. Pour ceux qui veulent se mettre à The Boys, c'est le meilleur moyen de commencer. Parce que les premiers tomes commencent à être un peu durs à se trouver aujourd'hui.
Moi, je l'ai piqué à un pote. Hein, donc
On aura un Absolute Civil War de 480 pages qui contient la série Civil War, les arcs concernés de Spider-Man, Captain America et Civil War The Confession, qui sortira en octobre. Et on aura deux omnibus Spider-Man par McFarlane et Acts of Vengeance. Donc le premier Spider-Man de Todd McFarlane fera 856 pages et celui d'Acts of Vengeance 752.
Eh ben, donc il nous sort du lourd, on a quand même chez Panini. Enfin, lourd à transporter.
Ah, et puis ça va être des beaux objets. Bon, par contre, c'est vrai que c'est relativement cher, hein, c'est autour de 65-70 €, hein, je crois, un omnibus. Mmh. Mais en même temps, voilà, 800 pages... en moyenne, ça reste pas mal de lecture.
Ouais, ça reste correct quand on recontextualise tout ça et tout ce que ça, tout ce que ça implique dedans, comme, comme histoire.
Pour le mois d'octobre, j'avais oublié des petites choses en fusion, excusez-moi. Il y aura encore un Buffy classique, un autre, et la suite de Dr. Sleepless, dont je parlerai tout à l'heure dans le podcast, dont le premier numéro sortait ce mois-ci. Et pour conclure, nous aurons lors du relaunch de juillet, des couvertures variantes pour Spider-Man, X-Men et Hulk.
Oui, alors il me semblait qu'à l'origine, il ne devait y avoir qu'une seule couverture variante, et finalement, ils ont étendu la gamme. J'avais lu ça quelque part. Je sais plus si c'était sur le Facebook ou autre de Panini.
Ah, c'est pas plus mal de proposer des variantes pour le kiosque, des variantes disponibles en comic shop, surtout pour des numéros 1, généralement, ça amplifie la demande. C'est pas plus mal, on a pu voir l'exemple ce mois-ci avec l'Ultimate Universe, dont tu nous parleras tout à l'heure.
Oui, tout à fait.
Je trouve que c'est une bonne chose de le proposer en deux versions comme ça. Par contre, 5, enfin même 6 versions comme ils avaient fait, bon, 5 variantes plus une version un peu plus de luxe comme ils avaient fait le mois dernier pour Five Ronin, à mon avis, c'est un peu trop, surtout pour de la librairie.
Ouais,
surtout pour le premier essai en librairie. Quoi.
C'est vrai que ça fait une grosse gamme. Quoi. Là encore, deux couvertures, les collectionneurs peuvent se permettre d'avoir les deux, de t'acheter les deux.
Ouais, puis voilà, enfin, ça laisse pas un choix monstrueux parce qu'on sait très bien que tous les libraires ne prendront pas toutes les couvertures s'ils ont le choix, ou alors on leur enverra un assortiment. C'est pas ce qu'il y a de plus judicieux, je pense, de faire 5 couvertures différentes. 2, 3 maximum, à mon avis. Au-delà, ça devient un peu ridicule, quoi. Enfin, pour moi, c'est déjà une mode ridicule aux États-Unis. En France, c'est tout autant ridicule.
Alors, oserais-je dire que c'est parce que c'est Panini et qu'ils ont un fort passé avec les choses à collectionner?
Là, n'engage que toi. Non, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est vrai qu'effectivement, ça peut être ça aussi. Mais je pense qu'il y a aussi le moyen de mimétiser un petit peu plus Marvel et toutes ces couvertures variantes. Quoi. On va continuer avec Panini et notamment la sortie du très attendu, enfin peut-être pas tant que ça, mais en tout cas, moi je l'attendais. Je sais pas ce qu'il en est pour toi, Corwin.
Si j'ai un smartphone, donc oui, j'attendais ça aussi.
Voilà, le Panini Digits, ça y est, c'est enfin disponible après quelques mois de retard. Parce que c'était prévu en début d'année et ça, je sais pas pourquoi, ça a merdé. En tout cas, c'est disponible maintenant depuis quelques semaines, là.
Oui, depuis j'ai vu l'annonce le 10 mai.
Voilà, donc une vingtaine de jours à peu près, 20 jours tout au moins, hein, aujourd'hui. Alors, l'application n'est disponible actuellement que sur tout ce qui est Apple. Donc les i machin.
Ce qui me déçoit parce que j'ai un Android.
Mais moi aussi, ça me déçoit parce que j'ai une tablette Android aussi. Ouais. Mais il prévoit de le sortir bientôt, mais il ne donne pas de date à savoir quand ce sera.
Ouais, mais souvent, c'est la mode de sortir d'abord sur le matériel Macintosh et après sur Android. Et bon, je trouve ça dommage.
Mais comme je l'avais dit déjà, ce que je trouve débile, c'est quand même que on sait très bien que pour proposer une application sur l'Apple Store, c'est toute une procédure, il faut qu'elle soit validée, enfin, c'est très très long et assez décourageant.
Et assez alors, contraignant aussi.
Voilà, et contraignant, parce qu'il faut qu'elle rentre dans plein de paramètres pour qu'elle soit validée. Une application Android sur le Play Store, parce qu'aujourd'hui ça s'appelle le Play Store, et c'est plus l'Android
Market.
Store, je sais plus quoi, l'Android Market, voilà, c'était ça. Ça s'appelle le Play Store, hein, le Google Play, qui regroupe maintenant en plus des films à voir, ce genre de choses. Je trouve pas ça des plus heureux, mais bon, là encore une fois, ça peut-être en arranger certains. Il n'y a pas de validation, on propose l'application, on la met sur le Play Store, elle est dispo.
Voilà, ouais. Après, il y a des correctifs, si après coup on se rend compte que c'est un truc tout pourri, il a jarte. Oui.
Mais il y a déjà un bug hein, dans l'application iPad, j'ai lu ça, dans leur newsletter. Si on essaye d'accéder à nos BD par l'onglet Mes BD, je crois, ça fait planquer l'application.
Ce qui est dommage.
Il faut aller directement sur la page du truc. Bon, je pense que ce sera résolu assez vite comme petit problème, mais je sais pas, moi je comprends pas pourquoi on peut perdre plus de temps à développer une application iPad et ne pas la développer pour Android alors que c'est super facile à mettre en place quoi. Bon après je dis pas que c'est plus facile à développer, j'en sais rien, je suis pas développeur, c'est pas mon métier, mais pour moi c'est illogique d'avoir d'abord une sortie iPad et ensuite une sortie Android. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui Android est leader sur le marché.
Oui, il a complètement dépassé tout ce qui était les high produits. Hein. Ça date d'il y a pas très longtemps, mais ça y est, c'est les premiers.
C'est pas étonnant, enfin voilà. Aussi bien que soit l'iPad, y a le fait que tout est verrouillé, hein, c'est Apple, donc forcément,
oui,
les gens sont plus séduits par quelque chose d'un peu plus libre.
Voilà, on va peut-être pas entrer dans le débat, mais moi je suis un fan du libre, de Linux, de tout ça, et c'est vrai que Android c'est plus ouvert et on peut faire plus de choses. Ça a des contraintes, c'est que les appareils Android, on va dire qu'ils sont moins réactifs que l'iPhone, ben ouais, mais eux ils ont un périphérique à gérer. Android, il y en a toute une gamme, donc forcément ça peut moins bien marcher parfois.
Bien sûr, et puis là, la possibilité de router son téléphone ou sa tablette beaucoup plus facilement,
Ah ben
surtout,
ouais.
et de passer en administrateur plus facilement, même si ça nique la garantie.
Oui. Après, quand on fait ce genre de choses, on commence à bidouiller, on s'arrête pas là,
Oui. Bah, moi, je m'y suis arrêté. Je t'avouerai que
quoi.
ma
Ouais.
tablette est encore sous garantie. J'attends encore un peu avant de la router, mais je vais bientôt sauter le pas parce que je commence à avoir marre des surcouches Orange et Samsung, quoi.
Ah oui, ça ralentit l'appareil, hein, en
Ah
plus.
putain, mais c'est pas possible, quoi. Surtout depuis cette mise à jour 3.2. Enfin, là, je sais qu'on dérive totalement du sujet, mais j'attends encore de passer sous ICS et c'était prévu pour mars et repoussé pour juillet sur la Galaxy Tab. J'espère vraiment parce que j'attends qu'une chose, pouvoir tester ICS avant de la router, si ça me plaît ou pas, quoi. Parce que là, j'en peux plus, quoi. Elle est vraiment lente depuis cette mise à jour de merde. Comme quoi, toutes les mises à jour sont pas bonnes.
Voilà, c'est ça.
On a totalement dérivé du sujet, mais enfin bon. On va revenir quand même sur Panini Digits. Alors Panini Digits, c'est donc leur service de comics en digital. Service qui, je trouve, est plutôt attirant, même si pour le moment il y a une quantité de titres assez limitée, puisqu'on va retrouver principalement du Conan, Scarlet, du Buffy et Rage. Donc pas mal de produits Dark Horse. Et un produit Icon. Alors ne cherchez pas les Iron Man, les Captain America, les X-Men, etc. Pour le moment, il n'y en a pas. En revanche, ça peut vous permettre de découvrir des choses que vous n'avez pas forcément achetées en librairie et à des prix relativement peu chers puisqu'on est à 79 centimes l'épisode.
Oui, c'est vraiment plus qu'abordable, quoi.
Alors ça se présente sous forme d'épisodes américains, c'est-à-dire que par exemple pour Scarlett, vous aurez 5 épisodes différents, vous aurez Scarlett 1, 2, 3, 4, 5, mais à 79 centimes l'épisode. Donc il suffit simplement de regarder ce que c'est et bah, vous voyez le numéro de la, enfin, le nom de la série, le numéro de l'épisode. C'est en français. Vous pouvez choisir la langue. Alors, là encore une fois, petit bémol. Vous pouvez avoir votre comic en français, allemand, espagnol et italien. Pour la plupart, pour certains, l'espagnol n'est pas là ou ce sera l'allemand, etc. Par contre, vous ne pourrez pas l'avoir en VO.
Ça, c'est dommage.
Ça reste compréhensible étant donné que la plupart des comics américains ont leur plateforme dédiée. Mais c'est vrai que ça aurait été pratique de les avoir en VO à si peu cher.
Oui.
Parce qu'honnêtement, à 79 centimes l'épisode, on est vraiment pas cher. Prenez les 5 Scarlett, ça vous reviendra en digital, ça vous reviendra moins cher que en librairie, qui était à 11,20 € je crois de mémoire.
Mais
Par contre, c'est sûr, c'est pas la même chose.
c'est logique pour moi que ce soit moins cher puisqu'on est sur quelque chose de complètement dématérialisé. Il n'y a pas l'objet, donc
Exactement, et ben voilà, mais eux, chez Panini, l'ont compris. Alors, pour une fin. Voilà, c'est vrai que ça nous arrive de dire du mal de Panini. Là, ils ont fait quelque chose de très bien. C'est vraiment pas cher. Parce que les Américains se font pas chier au niveau des prix quand même, hein. Quand ça sort le même jour, que ce soit du digital ou du papier, c'est le même prix. C'est-à-dire que le comics est à 3,99, il a 3,99 en digital. Après, ça baisse un peu, mais les prix restent bloqués quand même à 1,99 $ le numéro, ce qui est très très cher pour du back issue, je trouve. Là, 79 centimes, ça représente quoi? 1 $? À
Ouais,
peu près.
je sais plus combien il court, mais enfin, ouais, sans
C'est
doute.
à peu près 1 $, quoi. Enfin, moi, c'est ce prix-là, j'accepte de payer 79 centimes pour lire un épisode, quoi.
Ah,
Ça
mais
me paraît
carrément.
vraiment pas cher. Alors, certes, l'offre n'est pas des plus grandes pour le moment, mais il y a de quoi s'amuser quand même entre des Conan, des Buffy. Alors, Rage, je connais pas, donc je vais pas en parler. Je crois que c'est l'adaptation d'un jeu vidéo, non?
Possible. Là-dessus, j'en sais pas plus que toi. Hein. Honnêtement, je connais pas du tout cette
Petite
œuvre.
vérification. Oui, c'est ça. C'est l'adaptation, enfin c'est en tout cas dans le même univers que le jeu vidéo qui était sorti sur PS3 et Xbox 360. Donc, bon, faites essayez. Vous avez le Conan numéro 0 qui est offert gratuitement, qui est gratuit, que vous pouvez lire. Alors par contre, il faudra vous inscrire sur le site. Alors vous, bien sûr, si vous n'avez pas d'iPad, c'est vrai qu'on l'a pas précisé tout à l'heure, si vous n'avez pas d'iPad, enfin de produits Apple, vous pouvez quand même aller sur le site paninidigits.com. C'est tout attaché, de toute façon je mettrai le lien sur l'article qui accompagne le podcast. Et vous faites un petit compte, et puis voilà, vous pouvez acheter vos comics et les lire aussi sur ordinateur. Et votre compte sera relié quand, si par exemple vous avez comme nous des Android et que vous attendez que l'application soit disponible pour Android. ce sera votre compte sera relié. Donc ce que vous avez acheté sur PC, vous l'aurez sur sur Android. Et si vous avez Apple, Android et PC, les trois sont reliés ensemble, bien évidemment. Donc ce que vous achetez sur l'un, vous le verrez sur l'autre, etc., etc.
Ce qui est quand même sympa. Ils ont fait un bon produit, moi, je pense.
Moi, je suis franchement là, j'étais assez sceptique au départ et je suis relativement bien convaincu. Ce qu'on peut voir aussi quelques pages exemples hein, sur chaque comic, et ça m'a l'air pas si mal que ça, quoi.
Mais moi, j'ai pas eu l'occasion de le découvrir plus en avant, parce
Mais
que.
j'ai pas testé de lire le Conan Zero non plus, parce que j'attends simplement que l'application soit disponible sur Android. Je préfère lire ça sur ma tablette que devant mon PC, quoi.
Non, moi, j'ai juste pas eu le temps encore de m'y pencher plus que ça, quoi. Je suis rentré il y a pas si longtemps que ça.
Donc bah le allez, soyons fous. Panini Digits, c'est un bail.
Voilà.
Ou au moins un très gros check-it.
Et vous pouvez même faire plusieurs bails, là.
Ouais. Non mais c'est vrai que vraiment, hein, ces prix, j'insiste vraiment sur le facteur prix, mais 79 centimes, c'est vraiment pas cher pour un épisode, quoi.
Et alors,
On sait que
y
dans
a...
un tome de librairie, il y a 5 à 6 épisodes, faites le calcul.
Ouais. Et moi, je vois qu'il y a carrément un onglet gratuit, donc on peut supposer qu'il y aura d'autres numéros gratuits par la suite.
Exactement, ouais. Bon, on verra ce qu'ils vont ajouter, hein. Ça dépend aussi des deals qu'ils ont avec les maisons d'édition. Moi, je pense que Marvel n'est pas prêt de lâcher le morceau pour avoir des prix aussi bas, mais sait-on jamais.
Ben, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve.
C'est tellement beau.
Philosophique.
On va passer maintenant chez Urban avec l'annonce qui a fait pleurer pas mal de fans ce mois-ci, avec le gros retard sur les tomes de librairie du relaunch. Le Batman tome 1, La Cour des Hiboux, le Green Lantern tome 1, Sinestro, Wonder Woman tome 1, Lien de sang et Justice League tome 1 aux origines. Ils étaient prévus pour sortir en début de mois, au début du mois de mai, et suite à un problème de délai de réception de pages ou de matériel pas arrivé avant, à temps pour la traduction, enfin je sais pas trop, je me rappelle plus exactement, pourtant ça n'a pas grand intérêt de savoir exactement pourquoi. Il y a du retard et toutes ces sorties-là ont été décalées au début du mois de juin. C'est-à-dire que les premiers vont sortir le 1er juin et les suivants sortiront le 8. En même temps que ce qui va sortir au mois de juin, donc c'est-à-dire le nouveau Catwoman du relaunch, Sculpt par exemple, Grant Morrison présente Batman, etc. Bon, enfin moi personnellement ça me dérange pas que ce soit repoussé d'un mois, ça aurait pu être repoussé de 5, ça m'aurait pas dérangé non plus.
Moi non plus. J'aurais trouvé ça plus logique.
C'est vrai que là, du coup, le mois dernier, le podcast ayant pris du retard au niveau du montage, j'avais été obligé d'amputer les news parce qu'elles n'étaient plus forcément d'actualité et on avait fait tout un passage là-dessus. Le fait de sortir ces tomes de librairie qui reprennent l'arc complet alors qu'on retrouve les mêmes séries dans les kiosques,
Bah, c'est
je ne vois
tirer une
pas
balle dans le
l'intérêt.
pied.
Ah bah complètement, je suis entièrement d'accord avec toi.
Ou plus haut.
Dans le genou.
Je ne préciserai pas.
Du coup. Ça permet au kiosque de sortir en premier, donc Batman Saga, DC Saga, Green Lantern Saga, qui normalement sont disponibles au moment où vous écoutez ce podcast, et que l'on ne va pas traiter hein, ce mois-ci. On en parlera dans le prochain Comics City. Ça permet de découvrir déjà les premiers tomes, et puis si on est intéressé, d'aller acheter le tome de librairie, si on n'aime pas les autres séries, mais sortir le tome de librairie avant le kiosque, je comprends pas ce qu'il cherche à faire en fait.
Bah moi non plus, à zapper la librairie à plus ou moins long terme, peut-être.
Ou zapper le kiosque. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent à faire.
Oui,
Moi,
j'avoue,
je
le
ne comprends
kiosque, oui,
pas.
je me suis trompé.
Par exemple, quand on voit que des choses comme Aquaman ou Action Comics ne vont sortir qu'en septembre et uniquement en librairie puisqu'ils ne sont pas publiés en kiosque, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu sortir Aquaman et Action Comics tout de suite, en même temps que Wonder Woman, et donc avoir des personnages assez emblématiques tout de suite en librairie, et puis repousser la sortie de Batman, Green Lantern et Justice League au mois de septembre, justement, quand l'arc arrivera vers sa fin, puisqu'on en sera au numéro 5 au mois de septembre, et puis
Ouais.
même pour ceux qui veulent acheter le TPB, quoi.
En quelque sorte, voilà. Ça, moi, je trouverais ça beaucoup plus logique, quoi. C'est un peu comme on va au cinéma, le DVD il sort après la sortie du film. Bah là, c'est pareil.
Là, c'est vraiment bizarre, quoi. Je comprends pas. Enfin bon, on verra si ça marche pour eux, mais j'ai quand même des craintes quant à la suite de leur parution, parce que, enfin. Je pense pas qu'il y ait un énorme succès. Il y en a de toute façon un des deux qui va forcément pâtir. Soit ce sera la librairie, soit ce sera le kiosque. Mais les deux ne pourront pas survivre.
Si quelqu'un d'Urban nous écoute, qu'il n'hésite pas à nous expliquer, parce qu'on est dans le noir
Oui.
là.
Si encore. Enfin, je sais pas. Le problème, c'est que quelqu'un de lambda qui arrive et qui se dit je vais prendre le relaunch. Il voit les kiosques. Ok, c'est pas cher. Donc ça donne envie, 5,60€ pour un album avec 4 séries. C'est raisonnable.
C'est pas mal, oui.
Et puis, il voit que en librairie sort le même mois Justice League. Alors, prenons l'exemple de DC Saga, qui contient Justice League, Superman, Supergirl et Flash. Il voit son DC Saga, son kiosque, et il voit le tome de librairie où il y a juste Justice League. Et les 6 épisodes d'un coup, le premier arc. Qu'est-ce qu'il a le droit de penser? Il a le droit de penser qu'on sort ça parce que c'est vachement bien, et que le reste qu'il y a dans le kiosque, c'est de la merde.
Ouais, il y a des chances. Hein. Il y a de grandes chances.
Donc, il ira pas voir le kiosque.
Et voilà. Et il va zapper Flash et Wonder Woman et Superman, mais...
Ouais. Alors, bon, Flash est, à mon goût, très bon. Supergirl, pas forcément super accroché. Superman va en décevoir plus d'un. Ça, c'est clair et net. Mais, enfin, voilà. Et on a la même chose pour Green Lantern. Sortir la série Green Lantern, c'est-à-dire les 6 premiers épisodes de ce relaunch de Green Lantern, qu'est-ce que ça faisait sous-entendre? Que Green Lantern Corps, New Guardians et Red Lantern sont pourris? Ou sont pas assez bons pour être en librairie?
Oui, alors que par exemple New Guardian, moi je sais que je la suis en VO, c'est très sympa.
Ah, moi je trouve ça génial.
Ouais.
Alors moi j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui aime ça. C'est comme ça, je
désespère.
Ouais. Enfin c'est très sympa, donc enfin ce serait dommage de passer à côté. Enfin bon, on verra comment cette gamme va continuer, mais je crains fort qu'il y en ait une des deux qui s'arrête.
Eh oui, l'avenir nous le dira une fois de plus.
De même que, à mon goût, il aurait été plus judicieux de publier un Aquaman dans le DC Saga plutôt que le publier uniquement en librairie.
C'est sûr, oui. Vu ce que vous en dites sur le wiki, je pense que ça pourrait attirer du monde aussi, si c'est aussi bon.
Ah, c'est très très bon. C'est juste trop rapide à lire, mais c'est très très bon, par contre.
Mais rien de graphiquement, là, j'ai déjà feuilleté, c'est super beau.
C'est une claque visuelle, ouais. Là, Ian Reese est vraiment, vraiment, vraiment très très bon. Enfin bon voilà, donc c'était la grosse info urbaine, ce qui fait que quand même vous allez vous retrouver au mois de juin. Alors certes vous avez fait quelques économies au mois de mai, mais alors au mois de juin vous allez manger sévère. Parce que tout sort au mois de juin.
Et ouais.
Le portefeuille va avoir très bobo, je pense.
Ah, et puis il y a les vacances à préparer, Aquaman pour la plage ça aurait été bien par exemple, vous l'aurez plus tard.
Le retour, après avoir fait Aquaman tout l'été sur les plages, et ben vous pourrez lire ses aventures.
En septembre.
Pour histoire de vous redonner un petit goût de plage une fois que vous aurez repris.
Ouais, ou de poisson.
On va terminer les news par des news ciné.
Oui, alors des toutes petites news. Hein. Iron Man 3 a commencé son tournage en Caroline du Nord. Et ça a été l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur qui allait être le vilain. Donc apparemment des sources proches de la production ont dit que ça serait bien le mandarin, ce qui était question à un moment qui est d'autres vilains pas trop identifiés. Donc là c'est sûr, Iron Man se frittera avec le mandarin. Et sinon, il y a une partie qui se passe également en Floride, à Miami, pour être plus précis. Pareil, toujours d'une source proche de la production. Donc est-ce qu'il va nous la faire à la Miami Vice et aller passer un petit peu de temps à Cuba pour siffler des mojitos?
Et fumer des gros cigares.
Et fumer les gros cigares, oui. Bah, connaissant Tony Stark, moi, ça me surprendrait pas. Honnêtement. Enfin, voilà. Il y a des photos qui sont disponibles, mais malheureusement, enfin, pour être honnête, elles sont moches. Hein. C'est pris avec un appareil photo numérique de loin. Vous voyez une caméra, vous voyez Robert Downey Jr. arriver sur le lieu du tournage. Ça vaut pas tripette, quoi. Voilà. Et sinon, donc, du côté de chez Marvel, on a également appris récemment, hier, que... Il y a deux films d'animation, enfin deux séries d'animation qui allaient sortir en DVD le 31 juillet prochain. Blade d'un côté et Wolverine de l'autre. Bah alors pour ce qui est de Blade, on va avoir droit à Reawakened, suivi de Blade the Vampire Slayer, et il me semble que c'est tout. Et du côté de Wolverine, ça va être une série qui tournera autour de Mariko Yashida, de son retour au Japon et des problèmes avec son père.
Est-ce qu'on sait déjà au niveau du style graphique ce que ça va être? Est-ce que c'est plus proche du Wolverine que l'on voit la dernière série en date, hein, qui passe sur Game One, plutôt style manga? Ou...
Bah écoute, là j'ai pas vraiment d'image sous les yeux. Hein. J'ai vraiment juste la news, il n'y a pas d'image disponible au moins dans l'article que j'ai lu.
Parce que moi je trouve ça vraiment moche, mais j'ai pas regardé, peut-être que c'est très bien, mais les trailers quand j'en avais vu m'avaient absolument pas donné envie de voir le truc.
Non, il y a une image de Blade dans l'article que j'ai sous les yeux, donc ça me permet pas de juger de manière objective, quoi.
Est-ce que ton voix a l'air plus américain ou plus nippon?
Ça a l'air nippon ni mauvais. J'ai réussi à la faire. Ça m'a l'air d'être entre les deux, mais
D'accord.
Donc ça
Ok,
sera à
ok.
découvrir le 31 juillet en DVD.
Bon, je pense que d'ici là, on aura sûrement des petits trailers ou ce genre de choses, donc
Je
on
pense
vous
que
mettra
c'est
ça
ça.
sur le site dès qu'on en saura plus. Enfin,
Je
tu nous le mettras, puisque
vais
tu es notre
surveiller ça.
chargé de news.
Tout à fait. Voilà. Et bah, sur le cinéma, on peut finir avec un petit point sur Marvel's Avengers.
Eh oui, les scores monstrueux qu'il est en train de faire.
Je te laisse commenter peut-être.
Les scores que l'on a vus, on a vu ça sur Box Office Mojo. Nous sommes donc, comme je l'ai dit, le 30 mai, donc d'ici ce que vous écoutiez sera peut-être encore changé. Actuellement, il est à 523 millions de dollars, presque 524 millions, hein. Je vais pas vous donner les centaines de milliers, ni même les unités, parce que ça va être trop chiant. Il n'est plus qu'à 10 millions de dollars de The Dark Knight. Et ça, ce n'est que sur le territoire américain. Puisque si on fait le cumul avec l'étranger, nous sommes à 1 milliard 305 millions, etc., etc.
Donc il
Ce qui est
a
monstrueux.
dépassé The Dark Knight.
Ouais, The Dark Knight avait fait le tout cumulé 1 milliard et 1 million de dollars et quelques. Presque 2 millions, quoi. Donc là, il a vraiment totalement explosé. Va-t-il exploser le score sur le territoire américain uniquement? Bah, à 10 millions près, je pense que oui, le film a encore un petit peu de vie. Je pense que ça devrait être faisable. Reste à voir si The Dark Knight Rises arrivera à dépasser tout ça.
Ouais. Et là, il est encore au cinéma, l'affiche par chez moi, et je sais ce qui est agréable à voir, si vous avez attendu aussi longtemps, c'est que maintenant, il le propose quasiment plus en 3D. Donc ça peut valoir le coup.
C'est un argument, effectivement. Mais nous, quand on était à la Capo, il y avait eu une projection faite ensuite après le festival, juste pour les auteurs et la presse qui était encore là, etc., de The Avengers en 2D. On n'y a pas été, hein, parce que bon, on avait vu le film quoi, 2, 3 semaines
Ouais.
auparavant, c'était pas la peine de le revoir, on avait surtout autre chose à faire, mais c'était plutôt sympathique, quoi. Je trouve le principe de proposer le film comme ça pour ceux qui veulent le voir. Ou
Oui,
le revoir.
pendant les conventions comme ça, c'est vrai que c'est sympa. En plus, on est en plein dedans, hein, c'est le bon univers. Donc, c'est une
Bon,
bonne
c'était
idée,
un truc
effectivement.
totalement non officiel, hein. Enfin voilà, ça a été fait dans un petit cinéma, pas trop loin de la convention, mais ben, voilà, le principe était sympathique, quoi, de réunir tous les auteurs pour ceux qui voulaient et puis aller voir le film.
Voilà, ça peut être une idée pour les gens qui font la Comic-Con à Paris. Je sais pas si... Peut-être que c'est en place, hein. Je ne sais pas plus que ça, mais...
Comic-Con à Paris, quand même, j'en glisse juste un mot, hein, pour un gros what the fuck. Parce que là, franchement, je veux pas trop dire de mal, mais je pense qu'on a quand même un petit peu touché le fond. Puisque en invité d'honneur au niveau série, il y aura un des membres du cast des frères Scott.
Non. Attends, j'ai pas vu ça parce que moi ils mettent pas à jour leur programme, donc je suis pas retourné depuis un bout de temps.
J'ai vu ça passer sur Facebook.
Ah.
Voilà quoi. En quoi les frères Scott, c'est geek?
Bah oui, ils auraient mieux fait d'inviter, je sais pas, des gens de Game of Thrones, par exemple.
Par exemple.
En plus, à ce qui paraît, je ressemble à Théon Grégeois, donc.
Je trouve aussi. Je voulais t'en parler. Je trouve qu'il y a un petit air d'ensemble. Attends, c'est léger, hein.
Je te montrerai la photo de mon permis de conduire où j'ai 16 ans dessus et tu me diras ce que t'en penses, tiens. Voilà. Moi, je vais peut-être aller y faire un tour à la Comic-Con.
Ah, tu pourras peut-être te faire passer pour son sosie.
Et ouais.
Ça
Bon, en
pourrait
plus,
être très drôle.
j'ai un costume plus ou moins historique, donc il y a peut-être moyen.
Et pour terminer vite fait sur cette page ciné, les chiffres actuels de Men in Black 3, qui démarre plutôt pas mal,
Ouais, tout à fait.
puisqu'il a fait 69 millions, presque 70 millions aux États-Unis, et à cela il faut rajouter 133 millions à l'étranger, ce qui fait un total de 202 millions pour le moment. C'est plutôt pas mal.
Ouais, puis c'est un film qui se laisse regarder, hein. C'est sympathique, on rigole bien. C'est pas la surprise du premier, il est bien mieux que le second par contre, j'allais dire ça, c'est pas trop compliqué, parce que le second il était quand même moyen. Il est pas mal.
Ça vous fait deux critiques de Men in Black, hein. Deux critiques, on vous dit que c'est pas mal, donc allez le voir.
Eh ouais. Ah
Oui,
oui,
puisque
c'est Kingen qui avait apprécié
Kinyan avait été le
également.
voir, nous en avait parlé dans le dernier weekly aussi. Définitivement, c'est un check-it.
Voilà, tout à fait, c'est un check-it. Alors, je sais pas comment vous pouvez le checker, hein. Peut-être sur Internet vous avez des planches.
Eh bien, moi, je vous conseille le réseau social GetGlue, où on peut se checker, justement, comme ça, sur ce qu'on est en train de faire.
D'accord, c'est un genre de Twitter, non?
Ouais, une sorte de mélange, ouais. Peu entre Twitter et Facebook. Voilà. C'était là la petite parenthèse.
La parenthèse.
C'est un peu barré en live un peu partout, mais c'est pas grave. Alors, on va passer maintenant au review de ce mois-ci, et on va commencer par un petit peu de Panini, avec la sortie du deuxième tome de Marvel Knights, enfin du numéro 2 de Marvel Knights, pardon, au kiosque. Dans ce Marvel Knights numéro 2, nous avons deux épisodes de Daredevil, le numéro 3 et 4, donc c'est scénarisé par Mark Waid, avec Paolo Rivera au dessin pour le numéro 3, et Marcos Martin pour le numéro 4. Alors deux histoires différentes. La première, c'est la suite et fin de cet affrontement face à Klaw, qu'on avait pu voir dans le premier tome, enfin dans le premier numéro. Je vais y arriver, hein. Entre les tomes de librairie et les numéros de kiosque, fou. Bon, c'est toujours très sympa, moi j'aime beaucoup ce relaunch de Daredevil. Et justement, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez aussi de cette nouvelle version de Daredevil. Beaucoup plus légère, en tout cas en apparence. C'est pas si léger que ça, vous pourrez vous en rendre compte au fur et à mesure de la série. Mais c'est vrai qu'en apparence, ça paraît beaucoup plus léger, beaucoup moins sombre que Bendis et Brubaker.
D'accord. Moins torturé aussi.
Moins torturé, ouais, mais c'est, encore une fois, c'est plus de l'apparence qu'autre chose.
D'accord, c'est traité différemment.
Il y a quand même un fond assez noir de temps en temps. Mark Waid est quand même un scénariste expert, et j'aime beaucoup ce qu'il a fait du personnage. Et puis bon, les dessins de Paolo Rivera et ceux de Marcos Martin sont sublimes. Il y a une mise en scène qui est magnifique.
D'accord, bah tu donnes envie là.
Ah ouais, non, franchement, non, c'est pour moi, rien que pour ces deux épisodes, ça vaut l'achat du mail.
Ah oui, quand même.
Rien que pour ces deux épisodes.
C'est un très bon point.
Moi, j'adore. Pour moi, c'est la meilleure série de 2011. De toute façon, c'est ce que j'avais dit dans le top. Référez-vous à notre numéro spécial qu'on avait fait en fin d'année dernière pour les meilleures choses de 2011. Les petits Comic City Awards.
Tout à fait.
Donc oui, le deuxième tome commence un nouvel arc avec un petit gamin aveugle, comme Matt Murdock, qui bosse pour une compagnie, parce que c'est un gamin qui est super balèze. Il parle couramment 14 langues, je crois, plus pas mal d'autres dialectes. Et donc il fait travailler dans une compagnie assez étrange, et il se fait virer du jour au lendemain. Il vient donc chercher Daredevil pour qu'il le représente. Et on se rend compte très vite que cette histoire est beaucoup plus compliquée que ça.
D'accord.
Donc déjà, rien que pour ces deux épisodes-là, ça vaut le coup. On a ensuite deux épisodes de Ghost Rider. Alors, c'est peut-être pas l'ordre du mag, hein. Moi, je l'ai fait dans cet ordre-là. Deux épisodes de Ghost Rider, donc les épisodes 2 et 3, qui sont toujours avec, pour toile de fond, Fear Itself. Bon, franchement, Fear Itself est vraiment, mais plus qu'en filigrane derrière, on voit passer le serpent, je crois, une fois.
Et il s'est faufilé dans les herbes ou autre, c'est ça?
Franchement, il n'y a pas beaucoup d'interaction avec le reste de Fear Itself. Donc Johnny Blaze va essayer de contrer cette nouvelle Ghost Rider ou cette Ghost Rider Red, je ne sais pas trop comment on l'appelle.
Oui.
Alejandra qui est devenu donc le nouvel avatar du Ghost Rider, toujours avec cette espèce de personnage très étrange qui est Adam, qui essaye de la contrôler et qui surtout pour lui permettre de laver le monde de tous les péchés.
D'accord.
Et Johnny Blaze a un allié avec cette espèce de zombie qui est quand même très très drôle. Notamment une scène où il est là très content de chevaucher à l'arrière de l'ancien Ghost Rider sur une moto et qui avec un rocher qui tombe puisque le temple dans lequel ils sont est en train de s'effondrer, se fait arracher le bras, mais c'est pas grave.
Mais il a plus aucun pouvoir, Johnny Blaze, du coup ?
Johnny Blaze n'a plus aucun pouvoir, non, il est complètement humain, mais c'est Mephisto qui l'a remis en selle en disant il faut que t'ailles voir parce que ça va pas bien se passer.
Ce cher Mephisto.
Ouais. Pour finir avec le mag, il reste deux épisodes de Punisher, scénarisé par Greg Rucka et au dessin Marco Cecchetto. Alors encore une fois, les dessins sont sublimes. Marco Cecchetto est vraiment très très bon et honnêtement, moi qui ai vu le reste de la série, ça s'améliore, quoi. Ses dessins sont de plus en plus beaux et il le prend de plus en plus les personnages. C'est déjà très beau, mais ça va aller qu'en s'améliorant, quoi.
D'accord, il y a de la valeur ajoutée à chaque fois, à chaque nouvel épisode.
Ouais, ouais, franchement, ouais, non, c'est vraiment un très très beau Punisher, des très très beaux dessins. Alors toujours ces deux flics, hein, qui sont ni plus ni moins que les flics que l'on a dans Seven, hein, Morgan Freeman et Brad Pitt. C'est vraiment ça. Qui essayent de résoudre cette affaire du meurtre, enfin du massacre qu'il y a eu lors du mariage de cette ancienne marine. Et le Punisher qui essaye lui aussi de chercher à résoudre cette affaire et de punir les coupables. Mais il va tomber sur un os face à un vilain bien connu de l'univers Marvel, et notamment de Spider-Man, dépeint ici dans une version mais très très dark, très très glauque. Et le personnage n'a pas été aussi malsain depuis très longtemps, je trouve. Donc voilà, ça donne un affrontement épique. Et je vous laisse découvrir ça dans les pages de ce Marvel Knights. Donc franchement, un Marvel Knights qui est très très bon. Pour quiconque a envie de super-héros un peu plus terre-à-terre, hein, ce qu'on appelle les street-level characters,
c'est vraiment
le magazine à suivre. Là, vous avez le meilleur de la production street-level.
Bah, j'irai peut-être y faire un tour alors, je vais peut-être me laisser convaincre.
Bah, je le conseille, enfin, le numéro 1 doit être encore trouvable, je pense, dans les comic shops ou les librairies spécialisées, et franchement, ça vaut le coup de tenter, quoi. À 5,60 le magazine, on a 6 épisodes, ça sort tous les 2 mois, c'est pas excessif.
D'accord.
On va passer maintenant à Spider-Man.
C'est moi qui l'ai lu ce mois-ci. Alors on a tout ce qui s'appelle le prélude à Spider-Man. Donc dans le mag, on retrouve les épisodes 663, 664 et 665 d'Amazing Spider-Man. Et puis les petits backups ou les petites histoires supplémentaires qu'il y avait avec chacun d'eux. Au scénario, on retrouve Dan Slott et au dessin, Giuseppe Camuncoli pour la plupart des épisodes. On a le story arc qui s'appelle Le Retour de l'Anti-Venom. Donc comme on peut s'y attendre, eh bien Eddie Brock revient. Il en a après Mister Négatif, qui avait été introduit suite à l'effacement fait par Mephisto, si je ne dis pas de bêtises.
Et Brand New Day.
Brand New Day, voilà, je préfère oublier. Et il y a un personnage qui apparaît très rapidement, qui se fait appeler le Spectre, et voilà, je peux le dire tout de suite, puisqu'on l'apprend dès les premières pages, qui semble être... John DeWolf qui revient pour se venger et faire justice. Alors,
faites appel à vos connaissances d'anciens lecteurs.
Voilà, d'anciens lecteurs. Je vais pas en dire plus, c'est peut-être elle, c'est peut-être pas elle. Ça sera développé au cours du mag. L'histoire est... Bon, elle est sympathique. On retrouve du Spider-Man plus classique, j'ai envie de dire, puisque le mois dernier, on était plus sur des aventures fantastiques, avec les quatre fantastiques. Là, c'est l'anti-Venom, Spider-Man, et puis le
gros... Il reste le costume blanc qu'il a quand il fait partie des quatre fantastiques, enfin de la Future Foundation, hein, mais cette fois-ci sur anti-Venom.
Mais sur anti-Venom, voilà. Oui, j'allais dire, ça ressemble beaucoup. Quelques détails graphiques près, quelques excroissances un peu bizarroïdes. C'est à peu de choses près, pareil. Donc voilà, et puis on retrouve tout l'univers Peter Parker avec son boulot au Labo Horizon, Carly Cooper, et puis Tante May qui va lui apprendre une nouvelle, qui va pas forcément faire plaisir à Peter, mais c'est la vie, les choses changent. Peter grandit donc. Le personnage évolue.
Pour moi, c'est un bon développement pour Peter Parker d'ailleurs, cette chose-là.
Voilà, oui, c'est bien, c'est pas ce qu'on avait après Brand New Day, on avait tout effacé. Là, le personnage recommence à évoluer, il y a des changements dans sa vie, c'est intéressant. Et puis donc, sur la fin du mag, on a les petits préludes, justement, à Infestation. Ah oui, alors il y a un épisode centré sur Betty Brant, mais qui s'inscrit aussi dans cette préparation à Spider Island, où là, on retrouve un petit peu... Il y a un genre de parallèle qui est fait avec la mort d'Oncle Ben, hein. C'est pareil, j'en dirais pas plus, par rapport au comportement de Peter et comment il réagit. Et comment ça se déverrouille un peu la situation vers la fin. Et puis donc les 2-3 pages qui à chaque fois Infestation stade 4 et 5, où il y a on en apprend un peu plus sur comment va être amené l'événement. Et puis Peter Parker qui s'entraîne avec Shang-Chi parce qu'il a perdu ses pouvoirs.
Ses pouvoirs d'araignée, enfin ses pouvoirs de le Spider-Sense, quoi.
Le Spider-Sense, tout à fait. Et puis ça se termine par une histoire qui se passe dans le passé, au moment de l'adoption de Peter. Enfin, il y a un flashback qui est fait à ce moment-là. Et puis et justement le changement que Tante May lui dit et comment ça se passe, ce changement. Voilà, donc dans l'ensemble, un beau mag. Peut-être pas pour des nouveaux lecteurs, mais si vous êtes fan du tisseur, c'est à voir, quoi. Donc surtout que ça amène à Spider Island. Qu'on découvrira le mois prochain avec l'épisode 666. Le nombre de la bête.
Pour commencer.
Voilà.
Donc un mag que tu conseilles.
Pour les fans de Spider-Man, oui, je conseille. Si vous voulez vous y mettre, ça va être un peu plus compliqué.
Allez, on va passer à une des premières aberrations de ce mois-ci en termes de date de sortie chez Panini. Le Marvel Saga numéro 14 qui contient les épisodes d'Incredible Hulk 630 à 635, qui est donc la fin de la série Incredible Hulks. C'est écrit par Greg Pak et dessiné par Paul Pelletier. Alors le problème, c'est que on a la nouvelle série Hulk dont je parlerai tout à l'heure dans les pages de Marvel Stars. Mais ça, c'est sorti le 2 mai. Et là, le Marvel Saga qui contient la fin de la série. Alors, on peut lire le Incredible Hulks avant. C'est pas trop grave. Mais c'est sorti le 15 mai. Enfin, je veux dire, on peut lire la nouvelle mouture avant de lire ça, c'est pas trop gênant, il n'y a pas de suite à proprement parler. Mais c'est bien de virer un chapitre avant de passer à un autre, quoi. Donc, je trouve ça un peu dommage. On a eu le même problème avec le X-Men Universe hors série numéro 2, qui contenait les épisodes 248 à 253 de X-Men Legacy, dont on va pas parler hein, aujourd'hui cette fois-ci, puisqu'on ne l'a pas lu, tout simplement.
Ouais.
Enfin, pas assez pour pouvoir en parler. Et alors qu'on a la suite des épisodes de Legacy, c'est-à-dire 254 et 255, dans les pages du X-Men. Alors là, il n'y a eu qu'un décalage de 2 jours, c'est pas énorme, mais ça nuit peut-être un petit peu à la compréhension, tu m'en diras un petit peu plus tout à l'heure quand même
Ouais.
là-dessus. Donc pour le Marvel Saga 14, c'est donc le dernier arc de Greg Pak sur Hulk, qui a donc présidé à sa destinée depuis maintenant, rappelez-vous, Planète Hulk. Ça fait quand même loin, hein.
Ça remonte, ça remonte.
Et donc il va finir en apothéose avec un gros mélange de cette Hulk family. On a toujours la Reggie Hulk qui est partie avec Tyrannus. Je ne dirai pas avec quoi ça rime. Vous aurez tous compris.
Bah, tire pas trop sur. Ah, c'est gras.
Ouais, c'est gras. Ça dépend ce qu'il a mangé en fait. Enchaînement.
Au Japon, il y a des petits jets d'eau dans les toilettes. C'est vachement bien.
Ça me fait toujours penser à cette histoire de coquillage en Demolition Man.
C'est un peu ça, ouais.
On n'a toujours pas compris à quoi il servait.
Moi, je crois avoir une piste.
Donc du coup, Tyrannus présente son secret à Reggie Hulk. Bon, t'inquiète pas, je le prononcerai quasiment plus. Et son secret qui est donc une fontaine de jeunesse.
La fontaine en plus.
Il était très malade.
Je pense à la femme fontaine, moi.
C'est encore pire.
Bon.
Alors, on a un personnage qui va arriver, un ancien amour de Bruce Banner, qui travaille maintenant pour l'AIM. Non, l'Hydra. Pardon. Non, l'AIM.
De toute façon, c'est Mangeance, hein, c'est ceux-là, ces deux associations-là de méchants. Vont...
Et qui décide de transformer cette fontaine, puisqu'elle est experte en toxines et enfin, en biologie de toxines, enfin, j'ai pas tout compris. Des mots très compliqués que quand tu les lis, tu sais ce que ça veut dire, mais que tu peux pas reprononcer.
Donc, ce serait peut-être bien l'IM, du coup.
Non, mais c'est l'IM, oui, c'est bien l'IM. Et elle transforme cette fontaine de jeunesse en puits à souhait. Vraiment, c'est le truc dans lequel on jette une pièce et ça fait un souhait. Sauf que là, il n'y a pas besoin de jeter une pièce.
D'accord.
Et du coup, tout va se barrer en couille.
Tu
Mais grave.
m'étonnes.
Puisque, bien sûr, c'est un puits à souhait, mais façon mythologique. C'est-à-dire que les dieux n'aiment pas trop qu'on joue avec les souhaits et qu'on obtienne quelque chose sans rien en retour. Donc s'ils ont moyen d'exaucer ton souhait en le pourrissant en même temps, eh bien, ils vont le faire. Et donc, les choses qui sont souhaitées vont en général mal se passer. Donc on va avoir toute la famille Hulk, hein, que ce soit donc Hulk, A-Bomb, She-Hulk, il y a Amadeus Cho aussi. Je crois que j'en ai
Son
oublié un,
fils
il y aura
aussi.
aussi. Non, son fils n'est plus là, il est resté en Savage Land suite à la dernière aventure.
D'accord.
Voilà, ils vont tous essayer de se liguer contre ça. Et Amadeus Cho explique par exemple, pour donner un exemple des souhaits qui se passent mal, c'est-à-dire que si par exemple on souhaite que quelqu'un se taise pour ne plus l'entendre, eh ben on va devenir sourd, tout simplement. La personne ne se taira pas, mais on deviendra sourd. Donc voilà, c'est le genre de souhait qui tourne mal, imaginez appliqué à Hulk.
Ouais, ça peut aller très très loin, quoi.
Et avec un souhait mal formulé, il se retrouve face, en plus déjà, à Tyrannus et She-Hulk, Red She-Hulk, pardon. Il se retrouve face au Wendigo, à Armageddon, By Beast, et aussi Umar. Donc que des gros, gros, gros monstres qui datent du passé de Hulk. Et donc tout ça va se fighter sévère jusqu'à une résolution finale assez sympathique, un petit peu expédiée, mais c'est sympa. C'est voilà un arc over the top où on en prend plein partout, mais il y a aussi quand même Greg Pak remet les jouets qu'il a utilisés et remet une sorte de petit statu quo dans cette Hulk family. C'est sympa. C'est pas une lecture essentielle. Si on est fan de Hulk, si on est fan du travail de Greg Pak, c'est à lire. Après, pour les autres, c'est pas un passage essentiel, quoi. On pourra s'en passer. Ça reste malgré tout assez sympa.
D'accord.
6 épisodes pour 5 euros et quelques. C'est voilà, un bon petit TPB, quoi, encore une
C'est
fois.
toujours intéressant, ouais.
On va passer maintenant à une autre sortie du mois, un nouveau mag, le Ultimate Universe numéro 1, dont tu vas nous parler, Corwin.
Tout à fait. Donc, déjà, ça va faire plaisir à King Ed. J'ai bien aimé. Alors, je n'ai pas lu Ultimate Fallout, donc qui se passe avant, qui fait la jonction un petit peu entre, d'après ce que j'ai compris, qui se passe avant ce reboot et maintenant. Dans ce mag, on retrouve les deux premiers épisodes d'Ultimate Spider-Man.
Alors ça, c'est écrit par Brian Michael Bendis et au dessin, on retrouve Sarah Piccelli.
Voilà, donc très bon travail. On en apprend plus sur les origines de ce nouveau Spider-Man, qui n'est autre que Miles Morales. On ne voit pas en costume, pour l'instant. Donc c'est vraiment le début, comment il a acquis ses pouvoirs et comment il les découvre, tout bêtement. Donc c'est pas mal.
C'est pas mal écrit, moi j'avais lu cet épisode-là. Bon, ouais, c'est sympa.
C'est sympa, on rentre bien dans l'histoire, on passe un bon moment, quoi.
Avec des pouvoirs un petit peu différents.
Ouais, différent. Donc d'autres traits de certaines araignées qui sont mis en place. Puis il y a un clin d'œil, on va dire, très geek. Le nombre 42 revient plusieurs fois. Si vous ne savez toujours pas à quoi ça correspond, eh bien lisez H2G2, le guide du voyageur galactique. Ensuite, on retrouve dans le mag Ultimate X-Men, donc chapitre 1 et 2.
Écrit par Nick Spencer avec au dessin Lan Medina.
Et donc là, suite à Ultimatum, donc ce qui se passait avant. On apprend que les mutants, c'est pas une nouvelle espèce créée biologiquement, mais elle a été créée en laboratoire. On dit même que le premier de ces mutants, c'était Wolverine, qui n'est qu'une autre qu'une expérience de laboratoire qui a réussi. Et donc là, on vient sur des bases un petit peu des X-Men. Ils sont craints et haïs par le reste de l'humanité. Ils sont pourchassés par des sentinelles. On aborde différents groupes, différents élèves de Xavier qui se retrouvent un peu partout et comment ils réagissent à tout ça. Donc on a le groupe avec Kitty Pryde, Iceman et Johnny Storm, qui n'est pas un mutant. D'un côté, on a Jean aussi qui a pris une nouvelle identité, et puis le chef des Sentinelles, le révérend Stryker également. Donc ça commence à se friter gentiment. Moi j'ai bien aimé, j'ai bien accroché, j'ai retrouvé vraiment les bases de ce qu'ils faisaient les X-Men, donc c'est pour ça que ça m'a plu. Et ensuite, on termine le mag avec deux épisodes de Ultimates, La
Alors ça,
République en danger.
c'est écrit par Jonathan Hickman avec Essa Dribick au dessin.
Et donc là, eh bien, c'est pareil, on suit différents personnages des Ultimates. On suit Thor, on suit l'équipe britannique, on nous parle de Hawkeye. On ne voit pas les poids lourds comme Captain America. Par contre, Tony Stark fait une brève apparition.
Hawkeye, on le verra dans une mini-série Ultimate Hawkeye qui, je crois, devrait publier le mois prochain.
Oui, ça me dit quelque chose, oui, j'ai vu ça passer. C'est explicité à la fin du magazine d'ailleurs.
C'était prévu pour juillet au départ, mais je crois que ça a été avancé à juin.
Oui, parce que ouais, il me semble que c'est ce qu'ils disent. Hein. Et donc là, les super-humains font face à une nouvelle menace. Des gens dont on n'en sait pas plus, qui construisent un espèce de champignon. Alors ça m'a fait rire, dans un désert en Allemagne, parce que vu ce qu'il y a autour, ça ressemble à un désert, et ils disent que c'est en Allemagne.
Peut-être suite aux conséquences d'Ultimatum, ou je sais pas, peut-être que la physionomie
Ouais.
du monde a changé.
Peut-être, mais ça c'est pas expliqué. Il y a un mec avec un casque bizarroïde qui suit plein de gens, et ils construisent une espèce de champignon. Et je vous laisserai découvrir pourquoi en lisant ce magazine-là, on va pas vous spoiler non plus. Et donc ça s'avère être une nouvelle menace qui fout la
Alors,
zone.
j'ai souvenir de la review de Sam à l'époque, qui nous disait, quand on l'avait chroniqué à l'époque de la sortie dans le Comics Weekly, qui vous disait que la menace, voilà, si vous suivez l'univers Ultimate depuis longtemps, c'est très facile de savoir qui c'est.
D'accord. Moi, j'ai pas. Bon, c'est vrai que j'avais décroché pendant un moment, donc j'ai pas percuté. Peut-être que mes souvenirs vont revenir.
J'avais lu ce premier épisode, moi, à l'époque aussi, j'avais trouvé ça assez sympathique, ça bougeait bien,
Ouais.
on s'ennuie pas vraiment, ça
Tout à
traîne dans
fait.
tous les sens. Alors, j'ai pas lu les deux, moi, j'avais lu que le premier, et c'est vrai que déjà, le premier, voilà, on en prenait plein la gueule, hein, pour parler poliment.
Et ben le second qu'il y a là dans le mag aussi, c'est pareil. Ça, il y a de l'action. C'est intriguant parce qu'on se demande vraiment ce qu'ils vont foutre et pourquoi ils ont construit cette espèce de champignon. Ça bouge bien. Donc, dans l'ensemble, le mag, moi, il m'a beaucoup plu. Vous savez, 6 épisodes pour 5,70 €. L'univers vient de redémarrer. C'est l'occasion, quoi. C'est vraiment
Ah ouais, là,
l'occasion.
c'est vraiment le moment de s'y mettre. Si vous voulez
Y a pas
découvrir ce que
photo.
c'est Ultimate, vous en entendez parler depuis des années, sans forcément avoir jamais sauté le pas. Puis c'est vrai que quand on voit écrit numéro 150 sur un Ultimate Spider-Man, il y a toujours des chances
Ça
de
fait
dire, ah, je suis
peur.
pas sûr de comprendre, etc. Là, vous n'avez pas d'excuses. Vous pouvez vraiment vous
Ouais.
y mettre. En plus, ça sera un bimestriel, 5,70 € tous les 2 mois. Pour
C'est pas
six
cher.
épisodes, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher.
Et
Encore une
puis
fois, Panini fait vraiment des efforts sur le prix en ce moment.
là, pour le moment, la qualité est là, quoi. C'est joli et les histoires sont intéressantes. Donc voilà. Il y a pour ce numéro trois couvertures variantes. Il y en a une centrée sur chacune des séries. Hein, donc une sur Ultimate Spider-Man, une sur les Ultimates et la dernière sur Ultimate X-Men.
Faites-vous plaisir, tentez. Tentez le
Oui,
coup.
tentez le coup. C'est vraiment l'occasion.
Allez, on va maintenant passer à la partie X-Men. Alors, grosse partie, je pense qu'on va commencer quand même par le gros gros événement de ce mois-ci dans les pages des X-Men français, le X-Men numéro 15 avec le début de Schisme.
Voilà,
Vas-y, Gigi.
Schisme 1 et 2 qui sont scénarisés par Jason Aaron et au dessin et à l'ancrage on retrouve Carlos Pacheco et Cam Smith pour l'épisode
Alors,
1
ouais, voilà.
et Frank Darmata et Jason Keith pour l'épisode 2. Alors donc c'est le gros
C'est Frank
event.
Cho.
Ah bah il y a une erreur dans le X-Men que j'ai moi parce que c'est ce qui est écrit sur la première page de
Eh
crédit.
ben non, c'est
Ah
Frank
non,
Cho.
Frank Cho, je me suis trompé, c'est moi qui ai mal lu, eux ils sont aux couleurs, Frank Darmata et Jason Keith.
Ouais,
Autant pour moi.
Frank Cho, par moment, est pas très très inspiré, hein, honnêtement. Je
Oui.
j'ai pas forcément reconnu toujours le style de Frank Cho
Oui,
sur
ah oui,
certains
c'est vrai
points.
que le premier épisode est long. Tu me disais le numéro 1 était un épisode à 4,99 aux États-Unis quand il est sorti.
Un
C'est
épisode
vrai
plus
que
long, il y a une
l'épisode.
quarantaine de pages.
Ouais, l'épisode 2, j'ai trouvé un peu plus moche. Honnêtement, c'était pas terrible. Alors que
Et pourtant,
l'épisode
enfin,
1.
Frank Cho est quand même quelqu'un de connu et de reconnu dans le milieu, notamment pour la façon dont il dessine les filles. Mais là, notamment, enfin, cette page avec Kid Omega, par exemple, enfin, Kid Omega est
Bah
vraiment
oui.
très laid, surtout quand on compare avec le premier épisode, quoi.
Bah oui, il a rien à voir. En plus, là, il a une espèce de coupe de cheveux à la queue pont, et je sais pas s'il est coiffé comme ça dans l'autre. Enfin, il y a vraiment une grosse différence.
Pas autant. Il a plutôt les cheveux qui rasés sur le côté et qui se barrent un peu en live, mais
Oui.
il a pas une coiffure que Punk, mais il a là dans le numéro 2, quoi.
Il a une coiffure qui ressemble à ce qu'il avait à la fin de l'émeute à l'Institut Xavier, hein, si je dis pas de bêtises,
C'est ça.
quand il se les teint et qu'il se les rase, alors que là, oui, je sais pas, il est inspiré par les footballeurs ou, enfin, bref.
Bon, niveau dessin,
Alors,
donc c'est variable, quoi. Ça va
c'est
dépendre des
variable.
épisodes. Maintenant, au niveau de l'histoire.
Je te laisse commencer peut-être?
Pour résumer simplement, on voit petit à petit les divergences qui vont opposer Wolverine et Cyclope, parce que c'est un secret pour personne. Après Schisme, les choses vont changer. De toute façon, ça se dit tout seul, hein. Un schisme, c'est une rupture. Donc, il va y avoir une rupture, et dès le premier épisode, la façon dont c'est mis en avant, on comprend très bien que cette rupture va avoir lieu entre Cyclope et Wolverine. Alors, pourquoi? Justement, c'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de cette mini. Le premier événement commence principalement quand Cyclope va faire un discours devant les membres de l'ONU, demandant à ce que tous les pays soient démilitarisés, non pas pour les bombes nucléaires, mais pour les sentinelles. Ce qui est un petit peu radical. Encore une fois, Cyclope se radicalise de plus en plus.
Mais
Et
enfin moi quelque part je le comprends. Hein.
je,
C'est vrai que les sentinelles, c'est.
on peut
Ils
comprendre
sont
la
plus de
position.
200.
Oui, voilà. On peut comprendre la position. C'est juste après la méthode qui est beaucoup plus radicale. C'est plus proche des attitudes d'un Magneto que des attitudes d'un Xavier, quoi.
Ouais, il passe pas par quatre chemins. Hein.
Bah, en fait, c'est le ton qu'il donne. Même s'il donne une impression de leur demander, c'est plutôt une exigence.
Oui, voilà. Alors il dit pas ce qu'il va faire derrière s'ils le font pas, mais. C'est faites-le quoi, sinon.
Oui, et puis honnêtement, le fait d'amener Wolverine, même si c'est soi-disant comme une équipe de sécurité, tout le monde connaît Wolverine. C'est une preuve, quoi.
Voilà, c'est pour un petit peu montrer qui a la plus grosse.
C'est ça, ouais. C'est clair. Et bien sûr, donc les choses vont pas forcément bien se passer puisque Kid Omega va faire son grand retour et va débarquer en pleine conférence, utiliser ses pouvoirs un peu psy, afin que tous les délégués qu'il y a dans ce conseil de l'ONU commencent à sortir des vérités inavouables. Donc tous ces conseillers de l'ONU ne sont vraiment pas contents et ça va déclencher une vague de peur vis-à-vis des gens et tout le monde va réarmer les sentinelles que justement Cyclope avait demandé de décommissionner. Et voilà un petit peu le point de départ de Schisme. À côté de ça, on va aussi avoir le nouveau Hellfire Club, comment ça s'appelle en français déjà, je sais plus, Club des damnés, je crois.
Club des damnés, Club des damnés. Oui, là ça fait un peu plus communiqué quand on voit l'âge des membres.
Ouais. Alors, bizarrement, moi j'avais entendu des choses assez mitigées, hein. D'ailleurs plus de choses tendance négative que de tendance positive, et j'ai pas détesté. Bizarrement, je m'attendais à quelque chose de vraiment pas bien, j'ai trouvé ça pas si mal que ça en fait. Peut-être parce que
moi, pour l'instant, je trouve ça un peu léger quand même. C'est pas comme le... Ah zut, quand Hop revient avec Cable.
Second Coming.
Là, j'ai vraiment accroché. Là, je suis mitigé pour l'instant. J'attends de voir la suite parce que, je sais pas, ça, le démarrage, je le trouve mollasson, on va dire.
Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui monte, quoi. Après, faut voir si ça continue de monter dans l'épisode 3, dans l'épisode 4, et puis si ça continue pas simplement de monter dans l'épisode 5, quoi. Ce qui me fait un peu peur, c'est que finalement, ça monte beaucoup, beaucoup, et que ça n'aboutisse pas.
Ou que ça retombe comme un soufflet. Parce que, ouais, pour l'instant, sans plus, hein. Vraiment sans plus.
Par contre, là, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a tout ce thème évoqué sur la peur des mutants, etc., et ça aurait fait un très bon tie-in à Fear Itself. Dans l'esprit.
Tout à fait.
Dans l'esprit. C'est sûr que là, on n'a pas le serpent, on n'a rien. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se passe avant ou après.
Oui, bah, Colossus a ses cheveux, d'ailleurs, donc on peut penser que c'est avant. Ou...
Ouais. Enfin... Ce qui paraît, du coup, pas logique ensuite.
Face oui, à parce qu'ils sont pas séparés dans Fear Itself. Donc, il y a... Logiquement, ça devrait se passer après.
C'est assez bizarre. En tout cas, bon, bah, faudra voir où ça va. Là, c'est dans les pages de X-Men.
Voilà.
C'est quand même censé être l'événement qui change tout. Sur deux parties, c'est assez difficile de juger. Vous avez deux avis. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Toi, t'as trouvé ça un peu plus lent. Peut-être pas assez.
Ouais. Ça montait pas assez. D'ailleurs, on aura la suite dans le match qui suit. J'ai une petite remarque. C'est que sur la preview, c'est écrit Schisme 2 sur 3, alors que sur la couverture là, on a Schisme 1 sur 4, qui a une partie qui va se passer dans le X-Men Extra, et sur la page Facebook de Panini, c'est aussi écrit 2 sur 3.
Alors, la partie qui va se passer dans le... Comment tu as dit, c'était l'X-Men Extra ?
X-Men Extra, ouais, c'est ça.
Ça va être les épisodes de Generation Hope, parce qu'on a deux épisodes de Generation Hope qui sont taillés à Schisme.
Voilà, mais c'est peut-être bon de le préciser pour les auditeurs, quoi, parce que ça peut nous engluer dans l'erreur, hein, ce genre de,
oui,
de coquille.
Ben, on va continuer avec la suite du mag, hein, que toi tu as lu, par contre moi je n'ai pas lu du tout.
Donc c'est X-Men Legacy 254 et 255, où on trouve Mike Carré au scénario et Steve Kurtz au dessin. On peut avoir un petit peu de difficulté à rentrer dans l'histoire si on n'a pas lu le... Tu m'avais dit c'était...
C'était le X-Men Universe hors série numéro 2.
Puisque c'est ce qui permet de ramener les X-Men un petit peu sur le côté galactique. Hein, parce que là, on commence le mag, boum, on a Gambit, Magneto, je sais plus comment elle s'appelle, la Black qui est avec
Frenzy.
Eux. Et Frenzy, voilà. Et Malicia qui arrive en territoire Shi'ar.
Oui, effectivement, là, dit comme ça...
Donc, boum, quoi. On sait pas un peu ce qu'il en est. Bon, je me suis pas découragé. J'ai continué ma lecture. J'ai réussi à retrouver mes billes parce que ça fait un bout de temps que je suis des X-Men quand même. Donc, je me suis rappelé les nouveaux Starjammer, tout ça. En fait, on se rend compte que bah, l'Empire Shi'ar est plus ou moins en guerre civile. Et que donc Gambit, Magneto et Frenzy vont gérer une menace d'un côté. Ils sont partis à la recherche d'Avok. Donc il y a des Shi'ar d'un côté, l'autre pack, je sais plus du tout son nom. Ils sont bizarres.
Les cris.
Non, c'est pas les cris. C'est des mecs avec des espèces de mandibules qui sortent devant. Enfin, qui veulent se libérer des Shi'ar, parce que pendant longtemps, c'était une espèce qui était considérée comme des esclaves. Donc Magneto va être à prendre parti là-dessus pour pouvoir retrouver Avok. Et de l'autre côté, on a Malicia qui part toute seule chercher après Rachel, Summers. Et qui tombe sur les nouveaux Starjammer, dont notamment le commandant qui est un gros trouillard et qui laisse les autres agir à sa place. Sa lieutenant qui elle par contre c'est elle qui porte un peu le pantalon. Et puis il y a cette espèce de gros bonhomme à six bras qui a besoin de pilules pour pas être déprimé. Donc voilà. Pour vous resituer un peu l'action, après je vais pas aller dans le détail de l'histoire. Ça à découvrir. Une fois qu'on a réussi à tout resituer, c'est agréable. C'est agréable à lire, on est vraiment sur du galactique. C'est un combat entre deux factions, on essaye de voir ce qui reste des ruines de l'Empire Shi'ar. Rachel qui revient, enfin, vraiment intéressant. Moi, X-Men Legacy, pour le moment, j'adhère.
Et le retour d'Avok surtout.
Le retour d'Avok, de Lorna, et le mec avec sa grosse épée à la Clad dans FF7. Ce Shi'ar qui avait le tatouage du phénix.
Je me
Si
rappelle
vous
plus
vous
son nom, mais
souvenez.
je vois de qui tu parles.
Moi non plus, je sais pas s'il est réévoqué. Corvus. Et donc voilà, c'est ça assez sympathique. Par contre, il faudra, je pense, lire le hors-série juste avant. Pour se remettre les idées en place. Moi, j'essaie de le trouver personnellement, histoire de pouvoir cerner un petit peu tous les tenants et les aboutissants de l'histoire.
Ce hors-série, justement, on va en parler vite fait, hein. Il contient donc je l'ai dit tout à l'heure, les épisodes de Legacy 248 à 253. Donc vous avez encore une fois 6 épisodes pour 5,70 €, donc vraiment un petit TPB. Vous avez la fin d'Age of X, l'aftermath, c'est-à-dire ce qui se passe après, une sorte d'épilogue de conséquences à Age of X. Quelles conséquences ça va avoir pour l'équipe que l'on voit dans les X-Men Legacy? Et puis vous avez la suite, justement, cet épisode 250 à 253, qui va un petit peu là aussi gérer les répercussions, encore une fois, d'Age of X, puisque ça aura des répercussions sur pas mal de personnages, et notamment des personnages comme Légion, comme Frenzy, Rogue aussi, notamment. Pour ma part, j'ai lu Age of X depuis. C'est vrai que la dernière fois, comme je disais, j'avais pas accroché j'avais bien aimé le premier, le deuxième m'avait déplu, j'avais arrêté la lecture, j'ai rattrapé depuis. Et finalement, c'est un event qui était pas mal du tout.
Ouais, je l'ai pas suivi, hein. Ça m'a pas attiré en fait. Peut-être que je devrais m'y mettre aussi.
Y a un bon petit twist qui relance l'intérêt de l'histoire, parce qu'au début je me disais, ouais bon, ça va où quoi? Et il faut attendre le 3-4e épisode pour comprendre ce petit twist et se dire, ah finalement c'est peut-être pas si mal que ça. Le deuxième tome est d'ailleurs, en termes d'histoire, est bien meilleur, même si le premier est nécessaire pour comprendre un petit peu d'où on part et où on va, quoi.
D'accord, ok. Bon, en tout cas, là, ce qui me plaît dans X-Men Legacy, c'est qu'on revoit Gambit. Et Gambit, c'est un de mes X-Men préférés.
Ah, mon Dieu, j'en ai trouvé un autre.
C'est vrai?
Ah, mais moi j'ai toujours adoré Gambit, ce style, quoi, quand il arrive, la toute première fois qu'il prend Ororo, qui est toute petite, là. Le mec arrive avec son trench coat, son bâton, ses petits yeux rouges, là. Tu fais, mais t'as la classe, mec, tout de suite, quoi.
Carrément. Et en plus, il parle français.
Pas toujours très bien, mais quand tu lis la VO, c'est pas toujours très beau. Hein.
Ouais, c'est un cajun, hein. Mais
Ouais.
non, j'aime beaucoup. J'ai pas trop accroché ce qu'ils avaient fait de lui avec Mort, justement.
Moi non plus.
Mais là, je retrouve mon Gambit, je suis content.
Il y a un truc qui me fait toujours marrer dans les VO, c'est que beaucoup d'Américains placent le mot man un petit peu au milieu des phrases, genre get up man, etc. Et sauf que là, ils traduisent, hein, Google Trad, man, homme. Et donc tu vois en plein milieu d'une phrase get up homme.
Ouais,
Ce
alors.
qui est ridicule parce que personne dirait ça. Et s'ils traduisaient par mec?
Voilà ce que j'allais dire. Mec, ça collerait beaucoup plus.
Mais voilà, ça, ok, c'est pas exactement le même langage, quoique ça dépend, c'est pas toujours le même niveau de langage, mais voilà, pour avoir quelque chose de plus réaliste. Et je comprends pas pourquoi ils ne font pas appel à des gens qui parlent la langue un minimum, quoi. Ça peut se trouver quand même. Qu'ils aient un consultant français chez Marvel qui serve à toutes les séries où il y a du français dedans, et Dieu sait qu'il y en a, un gros paquet, et ça pourrait plus que servir.
Et ça serait suffisant en plus.
Mais bien sûr.
Parce qu'ils mettent pas beaucoup de français non plus dans leurs comics, quoi.
Enfin, c'est un petit reproche. Bon, en tout cas, ça n'impacte pas sur la VF déjà, et ça c'est plutôt pas mal, parce que généralement, ils recorrigent en VF.
Oui, ils sont français ce qu'ils disent.
Ce qui
Donc,
est quand même plutôt pas mal de recorriger.
oui, là-dessus, que ce soit pas purement exactement pareil que l'œuvre originale, c'est pas gênant. Ça a plus de
Mais
sens.
c'est plus de l'Américain qui a appris à parler français et qui parle donc pas bien. Enfin voilà, c'est vraiment ça, quoi. On a l'impression que c'est un étranger qui nous parle français. C'est ce qui est quand même terrible. Enfin bref, on reviendra sur le sujet du français tout à l'heure, justement, quand je parlerai du Batman Showcase.
D'accord.
On continue avec le... Ah oui, alors, ton avis d'ailleurs sur le X-Men 15 dans l'ensemble, un bon mag?
Dans l'ensemble, un bon mag, ouais. Vraiment, je dirais check it pour les deux premières parties de Schism. Et bah, Legacy aussi, puisqu'il faut lire le hors-série, mais sinon il est bien Legacy. Je me suis vraiment plu, ça m'a vraiment plu lire cette histoire, quoi.
Mais à réserver plus à un public expert, quoi, j'ai
Là,
l'impression.
par contre, oui, là, faut...
Ben, en même temps, c'est Mike Carey, quoi. Mike Carey a tendance à vraiment triturer la continuité et aller chercher des éléments du passé. Donc,
Voilà, ouais.
je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi, j'avais beaucoup aimé. J'aime un peu moins Legacy, hein, depuis que c'est Rogue en chef d'équipe, honnêtement. Genre depuis à peu près le 230 par là. Ça reste sympa, mais c'est pas ce que je préfère. Ce que j'ai préféré quand même, c'était vraiment le début avec la quête de Xavier qui revivait un petit peu tout ce qu'il avait vécu et qui
Oui.
repassait par tous ses souvenirs. Je trouvais ça très intéressant, très bien fait. Ça faisait appel justement à la vieille continuité, au vieux fan que je suis. Et ça me
Ouais,
plaisait, quoi.
et ben moi ça me plaisait aussi énormément, ça, tout ce qu'il avait fait avec Xavier au personnage principal, et puis les différents X-Men qui venaient tour à tour dans la revue, par Rogue et Gambit notamment, pour creuser un peu son passé, quoi. C'était vraiment bien. Mais là, moi ça m'a plu. Et justement, une petite triture la continuité comme ça, bah, c'est pour ça que ça m'a pas trop gêné non plus de pas avoir lu leur série avant, parce que j'ai réussi à faire appel à mes souvenirs et à resituer un petit peu ce qui s'était passé là-bas à l'autre bout de l'univers chez les chieurs, enfin les chiards, quoi.
Moi, tu m'as convaincu quand t'as dit qu'il y avait
Ouais.
Havok.
On le voit pas beaucoup.
Malheureusement, un personnage qui est beaucoup trop oublié à mon goût.
Et sous-exploité.
Ouais, aussi. Ah là là, il est loin le temps de Mutant X. Ou de X-Factor à l'époque où c'était Havok en chef d'équipe. Ah. Qu'est-ce que j'avais aimé cette série. Bref, passons à la suite. Le X-Men Universe numéro 15.
On retrouve dans ce magazine les épisodes 15.1 d'X-Men et l'épisode 16, ainsi que les X-Force 12 et 13. Donc j'ai commencé par le X-Men et le 15.1. Au scénario, Victor Bichner et Will Conrad, ainsi que Georges Molinet en dessin. Et là, on se retrouve dans une réserve indienne, avec les X-Men qui viennent pour régler un problème de démon. Ils sont accompagnés de Danny Moonstar, qui revient un petit peu chez elle, puisque c'est des personnes qui ont bien connu des membres de sa famille. Alors, on leur explique qu'il y a une vieille dame qui est sur le point de mourir, qui est un peu sorcière. Elle a étudié la puissante médecine, c'est la magie pour les Indiens.
Ouais,
Et
c'est une chamane, quoi.
c'est une chamane, tout à fait. Et elle a enfermé en elle plusieurs démons qui sont venus attaquer la ville. On ne sait pas trop pourquoi à l'époque. On en saura plus au fur et à mesure de l'histoire. Et donc évidemment, la vieille, bah, c'est con, meurt, et donc les démons sont libérés. Du coup, il y a Ghost Riderette qui arrive avec sa moto flambant neuve, flambant tout court.
Oui, je croyais que tu... Enfin, voilà, je me suis dit, ouh, la jolie petite blague.
Ouais, et qui vient pour régler ce problème-là avec les X-Men. Donc bon, bah, il se tape les démons, hein, les pouvoirs ça marche pas forcément bien dessus. Il y a Pixie qui est là, qui fait partie de l'équipe, qui gère un peu la magie, donc au final, ils arrivent à torcher ça. Et puis, à la toute
C'est
fin.
bizarre, hein. Ils amènent toujours un magicien quand il va y avoir des problèmes avec le démon.
Ah, ils ont du bol, hein. Et à la fin, on apprend pourquoi les démons sont déchaînés là. Voilà, j'en dis pas plus. Pour moi, c'est dispensable. Je vois même pas l'intérêt du point 1, parce que on nous présente pas les X-Men. On les introduit pas. Je veux dire, quelqu'un qui connaît pas les X-Men, ça va lui faire une belle jambe de voir qu'il se tape des démons, quoi.
Mais pour moi, le gros problème de cet épisode, alors je l'ai pas lu, hein, mais de ce que tu en dis, c'est quand même que pour un numéro point 1 qui est censé te permettre de commencer, on te présente dans les pages de X-Men des gens comme Danny Moonstar,
Voilà, qui fait partie des New Mutants,
Gambit qui est dans X-Men Legacy,
et qui est parti en loin.
et Ghost Rider, dont c'est
Ghost
absolument pas la
Rider.
série. Donc je vois pas forcément l'intérêt de mettre ça en X-Men point 1, quoi. Si présenter l'équipe que tu vois plus principalement dans la série X-Men, quoique, est-ce qu'il y a vraiment une équipe dans cette série?
Bah, t'as juste Cyclope et Tornade, qui sont plus régulièrement dans les autres pages, mais voilà, quoi. Et encore, Tornade, c'est quand elle veut bien venir.
Quand t'allais pas chez les... Je sais pas où, d'ailleurs.
Voilà, quand t'allais pas avec la Panthère Noire, par exemple.
Ouais.
Donc, et puis c'est dispensable, quoi. Ça n'amène rien
Quoique
du
non, parce
tout.
qu'elle est même pas avec la Panthère Noire, parce qu'on le voit, il est dans sa série tout seul, là. Dont le premier tome est sorti en librairie il y a de ça 2 mois, et qui était très très bien d'ailleurs. Et on la voyait passer, mais il lui disait clairement, non mais écoute, laisse-moi me redécouvrir depuis que j'ai plus mes pouvoirs de panthère, donc en gros dégage, fous-moi la paix, je viendrai te voir quand je serai prêt.
On fait une pause, un petit peu à la Friends.
Ouais, c'est un peu ça, oui. Avec les conséquences que l'on connaît.
Mais on avait rompu! Bref. Le numéro 16, on retrouve les 4 fantastiques qui viennent rendre visite aux X-Men sur Utopia parce qu'il y a un problème dans le triangle des Bermudes. Il y a une espèce de balise bizarroïde qui est sortie pendant que Spider-Man emmenait la Fondation du Futur en observation, je pense. Hein. Et donc forcément, ça a créé les 4 fantastiques et c'est une menace. Enfin, il y a un signal qui est envoyé d'une personne que les X-Men connaissent bien. Il faudrait que je retrouve son nom à la personne. Enfin bref, moi le design, hein, donc faut la rigueur passer dessus.
Celui qu'on voit sur la dernière page?
Non, c'est une fille, donc c'est pas
D'accord.
l'homme. Et donc les X-Men et les Quatre Fantastiques vont explorer un petit peu cette anomalie. Et voilà, c'est un petit peu la mise en place de l'histoire. Hein. On retrouve un.
Mais j'ai quand même l'impression, alors je lis très très peu cette série X-Men, hein, j'ai lu honnêtement de cette série X-Men, j'ai lu le premier arc, enfin bon non en fait j'ai quasiment tout lu, je suis en train de dire une bêtise, mais bon bref, j'ai pas aimé dans l'ensemble, à part l'arc qui était le dernier là, First to Last,
Oui, qui était très bon.
qui était très sympa, j'ai quand même l'impression que cette série X-Men est ni plus ni moins que pour essayer de faire sortir les X-Men de l'espèce d'autarcie dans lesquelles on les a mis depuis maintenant quelques années, où ils ont leurs aventures et ils n'interagissent plus avec le reste du monde, puisque dans le premier arc, on les faisait se battre contre les vampires, qui étaient censés devenir la grande menace, et vu que ça s'est cassé la gueule, on a vite oublié ces vampires. Forcément, c'était tellement pourri, il faut dire. Victor Guichler n'a rien à faire sur ce titre, il est pas bon pour X-Men, donc voilà. Le deuxième épisode, on les voyait interagir avec Spider-Man face aux lézards, etc., dans
C'était
les
nul
rues de New
aussi.
York. C'était, en plus, moi j'ai trouvé ça pareil, aussi très très nul, plein de bons sentiments et de moralisation à deux balles. Truc que tu trouves au comptoir du PMU et merci, mais c'est pas le genre d'endroit que je fréquente. Là, on les fait interagir avec les quatre fantastiques. J'ai l'impression vraiment qu'on essaye de, dans cette série, de nous montrer les X-Men interagir avec le reste de l'univers Marvel, plus ou moins bien,
Ouais,
plus
c'est
souvent
sûr.
moins que plus d'ailleurs. Mais enfin, je sais pas, je comprends pas trop ce qu'ils veulent faire avec cette série, mais bon.
Et ben, c'est à peu près l'avis que j'ai sur ce premier épisode, je sais pas. Pour moi, ça pourrait être pas mal, mais j'attends d'en lire plus, en fait. Pour le moment. Ça peut être sympa de les avoir avec les quatre fantastiques, hein, mais là, ça.
Sur le papier, c'est pas une mauvaise idée de les faire interagir avec le
Voilà.
reste de l'univers. C'est juste que c'est mal réalisé à chaque fois. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, c'est mal réalisé. Ce coup des histoires des vampires, c'était nul à chier. Le coup avec Spider-Man, c'était nul à chier. Là, je l'ai pas lu, donc je vais pas me prononcer parce que j'aime pas dire du mal de quelque chose si je l'ai pas lu.
Ouais.
Je trouve ça pas juste, mais voilà. Enfin, c'est vraiment juste pour dire, regardez, on est les X-Men et on est quand même là. On est une force qui compte dans l'univers. Il faut au moins qu'on interagisse avec les gens. Parce que c'est vrai qu'on voit fréquemment les quatre fantastiques passer dans les pages de Spider-Man, encore plus maintenant qui fait partie des quatre fantastiques, mais de même qu'on voit les Vengeurs passer, enfin voilà, tout le monde interagit sauf les X-Men. Il n'y a que
Oui.
Wolverine qui interagit avec tout le monde, mais c'est normal.
Bah, c'est la superstar. Donc là, honnêtement, cet épisode, je sais pas quoi en penser. J'attends de lire la suite pour en dire plus, parce que là, il m'a laissé un peu froid, quoi. Ouais, c'est ok. Ils partent avec les quatre fantastiques, ok. On va voir derrière ce que ça donnera. Peut-être que ça sera bien, hein. Peut-être que je trouverai ça génial le mois prochain ou dans 2 mois, mais.
Personnellement, moi, Victor Guichelin m'a pas convaincu sur le début. Hein. D'ailleurs, le meilleur arc, c'était pas lui qui l'écrivait.
Ouais,
Donc,
c'est vrai.
c'est bien la preuve qu'il est pas à sa place, quoi.
Et surtout, c'est que juste après, j'ai lu
Bah
Uncanny
oui.
X-Force.
Reste la pépite du mag, quoi.
Voilà, donc là, c'est écrit par Rick Remender et les dessins sont de Mark Brooks et Scott Eaton. On est toujours dans la saga de l'Ange Noir. Les X-Men se retrouvent coincés dans l'ère d'Apocalypse pour récupérer la fameuse graine de vie afin de tuer Apocalypse qui est en train de se réveiller au fin fond de Warren Worthington. Et ils ont retrouvé les X-Men de l'ère d'Apocalypse dans le dernier épisode. Et là, ils sont en train de se concerter un peu pour voir comment on va s'y prendre. Surtout qu'il y a une menace qui pèse sur ce monde de l'ère d'Apocalypse. Et comment un petit peu gérer tout ça. C'est toujours aussi bon.
C'est très très bon, ouais, on va pas trop trop en dire parce que
Non, faut pas.
non voilà, c'est vraiment à découvrir. Alors pour ceux qui ont lu l'ère d'Apocalypse à l'époque ou même qui l'ont lu depuis, puisque c'est ressorti en best-of, je crois, non, en Marvel Select ou Marvel Gold, je ne sais plus, enfin une des collections à pas cher là il n'y a pas très longtemps.
Ouais, et puis voilà, ils sont en train de les ressortir en ce moment.
C'est génial. C'est
Voilà.
génial. Ça permet de voir ce que sont devenus ces personnages, ils ont évolué, le monde a continué de tourner depuis la fin de l'ère d'Apocalypse. Et waouh quoi. Ces retournements de situation sont monstrueux.
Juste pour teaser un petit peu, Uncanny X-Force et les X-Men de l'ère d'Apocalypse se mélangent un petit peu pour faire deux équipes qui vont chacune jouer un rôle important dans leur plan. Donc, j'ai dit une nouvelle menace. On retrouve aussi la Légion Noire. Avec des trucs comme Iron Ghost, vous savez, un mélange entre Ghost Rider et Iron Man, ce genre de choses. C'est sympa, ça bouge bien, l'histoire est bien amenée, bien ficelée, il y a des bons petits cliffhangers, des retournements de situation.
Et j'ai envie de dire, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, hein.
Et non, et on va de surprise en surprise.
Ah, ça ne va pas arrêter. Il y a que de mémoire, je crois que c'est l'épisode d'après qui m'avait laissé un peu plus froid, que c'était un peu plus lent. Mais c'est le la petite descente, hein, au milieu d'un arc, il faut toujours un moment un peu plus calme, où les choses n'avancent pas trop. Donc ce sera pour le prochain mag, je
C'est
pense.
là. Là, c'est pas calme.
Mais là, ça bouge, quoi.
Et
Et
tu
tous les
l'as.
épisodes bougent, hein, à l'exception, comme je dis, du prochain. Tous les épisodes bougent et m'ont vraiment fait plaisir à lire. Enfin, moi qui n'aimais pas vraiment Uncanny X-Force, là, enfin, ça devient excellent, quoi.
C'est excellent. On a le point de vue de Wolverine aussi. Où là, bah, j'en parlerai après de l'autre, du Mag Wolverine, mais là, qui est carrément intéressant.
Mais c'est la meilleure série X-Men de 2011.
Ah,
Enfin,
clairement, clairement.
presque à égalité avec Wolverine et X-Men que vous découvrirez bientôt. Mais voilà, c'est vraiment excellent.
Et voilà, là, Uncanny X-Force, eh ben, il sauve le mag par rapport à des X-Men un peu moyens, on va dire.
Ah oui, rien que pour ces deux épisodes, là encore une fois, c'est pareil, ça vaut le coup d'être acheté.
Ça vaut le coup, ça vaut le coup, c'est bon, c'est juste bon en fait.
J'espère pour ceux qui ne suivent pas en kiosque que cette saga aura le droit à une réédition en deluxe ou ce genre de choses-là, parce que elle mérite tout à fait sa place en librairie, quoi.
Ouais, c'est voilà, c'est un peu sombre, enfin c'est. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein, c'est cette série-là qu'ils ont choisi pour faire la couverture, hein, donc.
On va donc passer maintenant au dernier Mag X-Men, c'est le Wolverine.
Alors, le Wolverine numéro 11, donc on retrouve deux séries différentes. Tout d'abord Wolverine 15, et ensuite Wolverine et Hercule, qui donc là est un petit team-up, le quatrième et dernier épisode. Donc je commence par le Wolverine, scénarisé par Jason Aaron et au dessin Goran Suzuka.
Oula.
Oui. Donc là, c'est le premier numéro, il me semble, de Wolverine No More. Vous savez
Encore?
précédemment. Ah oui, encore.
Ouais, faut arrêter avec ces titres-là, quoi. Ça devient vraiment lourd quand on n'y croit plus une seconde.
Bah oui. Et donc là, c'est parce que tout simplement, précédemment, Wolverine a découvert qu'à cause de la main droite rouge qu'il avait tué, c'est toujours aussi ridicule. Il avait tué ses enfants cachés, ses bâtards. Et donc là, on a un Wolverine qui s'apitoie sur son sort, qui essaye de faire son deuil en se disant, bouh, j'ai tué mes enfants, c'est mon Dieu, c'est affreux. Et voilà, quoi. Un petit peu, il s'apitoie et c'est tout. Il n'y a que ça. C'est complètement indispensable.
Oui.
Ben, je suis pas rentré dedans. Franchement. Et puis le contraste avec le point de vue du Wolverine qu'on a dans Uncanny X-Force qui là il s'apitoie pas sur lui, il va de l'avant, enfin, il pense à des vieilles choses, mais il progresse, là c'est tout quoi.
Il roule des patins en plus.
Il roule des patins. Mais c'est dans une X-Men Universe, c'est pas là. Et donc je passe tout de suite à Wolverine et Hercule, numéro 4. Donc cette fois c'est Frank Thierry au scénario et Juan Santacruz au dessin. Donc, fin du team-up de Wolverine avec Hercule. Ils affrontent chacun dans leur coin. Donc, respectivement, pour Wolverine, c'est Matsuo, je dis pas de bêtises. Pour le gars qui l'a tous les ans coupé en morceaux parce qu'il était impliqué dans la mort de Mariko. Voilà. Et
Ça, c'est du Wolverine tout craché.
de l'autre côté, Hercule qui va se taper le Kraken, qui a été libéré à la fin de l'épisode précédent par un vieux roi grec, Eurysthée, il me semble.
Fais pas les choses à moitié, le père Hercule.
Non, et puis, bon, il a un copain de son pote Wolverine. Donc, il y a ça, il y a le Kraken, et après, il se tape un tas de zombies. C'est un épisode qui va très vite, j'ai trouvé. Peut-être un peu trop. Peut-être qu'il aurait fallu plus étaler ces combats-là, ou, je sais pas, par rapport au reste de l'arc. Je trouve toujours ça sympa hein, d'ailleurs. Je trouvais que ça allait un peu vite sur la fin. C'était un petit peu rushé. Ça reste sympathique, ça reste plaisant. Enfin, moi, ça m'a fait rire, en tout cas. Ils font toujours référence à la colère des titans et au choc des titans. Et Hercule râle là-dessus. Enfin, c'est vraiment une aventure de potes.
En même temps, il va se battre contre un Kraken. Il s'attendait à quoi, hein?
Oui. D'ailleurs, ils voulaient pas l'appeler Kraken. Voilà. Mais ce mag numéro 11, je trouve qu'il est dispensable. Si vous avez suivi les trois premiers épisodes des Aventures avec Hercule, bon, voilà, vous avez la fin. Mais c'est pas la meilleure partie de cet arc. J'ai préféré le troisième épisode, où Wolverine était changé en pierre. Je trouvais plus sympa, plus fun à lire. Voilà.
Et donc, c'est la fin aussi de la partie X-Men, hein, il me semble. Ah non, pardon, je suis en train de dire bêtise, on a oublié le X-Men Select numéro 2, quand
Oui,
même.
j'étais en dessous de ma pile aussi, donc je l'avais plus sous les yeux.
Non, mais tout à l'heure, je disais c'est le dernier, mais non, bon, effectivement, il nous reste le X-Men Select numéro 2, qui est donc un magazine spécial Fear Itself, une saga complète, hein, comme c'est bien marqué sur la couverture. Ce sont les épisodes de New Mutants numéro 29 à 32. Les New Mutants rentrent dans le crossover Fear Itself, et donc, quand on connaît un tout petit peu les New Mutants, on comprend tout de suite pourquoi, puisque Danny Moonstar est une Valkyrie, forcément il y a un lien avec Asgard, vous pouvez pas passer à côté.
Et avec la reine de l'enfer.
Ouais, et là, la reine de Hell. Ouh, on s'est trop fait chier pour les noms. Bon, c'est des
Et...
noms mythologiques, hein, c'est pas eux qui ont choisi, mais on voit qu'à l'époque ils étaient pas très inspirés quand même. C'est scénarisé par Dan Abnett et Andy Lanning avec des dessins de David Lafuente. Alors, bah, comme j'ai dit, hein, voilà, Valkyrie, pardon, Danny Moonstar va reprendre son rôle de Valkyrie pour aller porter secours à Ella, qui se trouve bien embêtée face aux hordes du serpent. Ça a lien avec Fear Itself, oui, mais finalement c'est lisible même si on lit pas Fear Itself.
Tout à fait. Moi,
Il
j'ai
n'y a
arrêté de
rien.
lire Fear Itself. J'étais pas paumé.
Il y a beaucoup d'humour, on va pas rentrer trop dans le plot, hein, voilà, il y a beaucoup d'humour, les New Mutants vont partir à la recherche de Danny Moonstar, qui est partie bien sûr toute seule, forcément, en grande chef, très logique qu'elle est. Ils me font toujours marrer, de toute façon, c'est toujours ça, genre, oh non, je vais pas embêter mes amis avec les problèmes, les amis, c'est là, c'est fait pour ça, à la base, hein, enfin, pas fait pour,
D'ailleurs, il...
tu leur files les problèmes, mais au moins pour qu'ils te filent un coup de main.
Voilà, il lui rappelle, hein, gentiment, mais t'es chier, t'aurais pu nous le dire.
Ouais, c'est clair. Mais si elle y avait été toute seule, si elle avait pas été toute seule dès le départ, ça serait peut-être mieux passé.
Bah oui, et puis ils n'auraient pas rencontré un grand copain de Spider-Man sur la route.
Alors, ce passage avec Mephisto est très très drôle. Et c'est marrant de voir justement Cypher se planter, pour une fois.
Voilà. Pour ça. C'est dire pour ça, les gens, gardez bien en tête que enfer, en anglais, ça se dit hell, mais avec deux L, cette fois-ci.
Oui. Et il y a beaucoup beaucoup de jeux de mots là-dessus, justement dans la VO. Alors je sais pas trop comment ça a été traduit en VF, mais effectivement, il y a beaucoup d'humour avec cette double dénomination de l'enfer, en fait, que ce soit
Ouais.
l'enfer asgardien ou l'enfer judéo-chrétien.
Voilà, il faut un petit rappel dans des notes de bas de page qu'en anglais, enfer, ça se dit L avec deux L. Je crois même que dans le texte, c'est carrément écrit L en anglais. Oui, c'est ça. Et il y a l'indication en bas de page.
Alors on va avoir les premières interactions de Nate Grey avec le reste de l'équipe dont il va maintenant faire partie. Moi j'aurais juste un petit reproche. Cette saga est très sympa à lire. C'est pas la meilleure chose que j'ai lue dans les New Mutants.
Non,
Mais
c'est
ça
pas.
reste agréable. Il y a juste le petit reproche que je vais faire à New Mutants, et ce sont des impératifs comme d'habitude de continuité. C'est que depuis que Dan Abnett et Andy Lanning ont repris le titre, il y a une rupture, et pas forcément dans le bon sens. Alors, le premier arc était très sympa avec le fait d'aller chercher Nate Grey et ce nouveau but de l'équipe de devoir gérer les problèmes non résolus des X-Men. Mais ensuite, ils se sont tapés Age of X. À peine sorti d'Age of X, on passe dans Fear Itself. C'est-à-dire que là, ça fait donc 3 et 4, 7 numéros, donc 7 mois. Peut-être un peu moins, parce qu'il y en a peut-être qui sont sortis deux fois dans le mois, mais en tout cas, ça fait 7 numéros d'affilée où finalement, les New Mutants ne font pas ce qu'ils sont censés faire, c'est-à-dire gérer les problèmes laissés de côté par les X-Men au fil des années. Et c'est vraiment dommage parce que moi j'aimais bien ce principe, le fait de partir à la recherche de Nate Grey, etc. Je me dis, sur quoi ils vont partir ensuite? Et donc là, 7 numéros de suite, ça commence à être un peu long, quoi. Donc j'espère que ça va vite repartir sur autre chose. Pas que les histoires sont pas bien, mais il y avait tellement mieux à côté. Dan Abnett et Andy Lanning se retrouvent un petit peu les pieds et poings liés à devoir faire face à la continuité du reste de l'univers Marvel.
Mais je suis assez d'accord avec ton analyse. Moi, j'aime bien ce côté de. On termine les affaires non classées, quoi. C'est un peu les X-Files des X-Men, si je peux dire.
Ouais, c'est ça. Le cold case aussi, peut-être, je ne sais
Ou
pas.
cold case, oui.
Mais c'est vrai
C'est vrai
que
que c'est attrayant, quoi.
on pouvait imaginer tout et n'importe quoi. Donc là, par exemple, tu l'as dit tout à l'heure, hein, le côté Havok va être réglé par l'X-Men Legacy, mais ça aurait très bien pu s'inscrire dans la continuité de New Mutants, s'occuper de Havok qui a
Ouais.
disparu quand même. Je sais pas, Cyclope, il s'inquiète pas qu'il ait plus de frère, quoi. Enfin, que son frère soit à l'autre bout des étoiles, il sait même pas s'il est en vie ou mort, c'est pas grave.
Non, mais moi je me dis que dans quelques temps, on va nous sortir que Cyclope, en fait, c'est un Skrull et qu'il était là pour foutre la merde. Parce que c'est vraiment un connard. Enfin.
Ah, bah ouais, toi aussi tu trouves que c'est un connard.
Ah ouais, non, mais il est de pire en pire, hein, il s'arrange pas, quoi.
je t'avouerai que ça va être de pire en pire encore.
Un coup de l'ardoir de la part de Wolverine, ça lui ferait pas de mal, quoi.
J'attends que tu lises le début du prochain événement pour voir à quel point Cyclope s'enfonce.
Ah oui. Et on a oublié un truc dans Smite quand même, c'est que à la fin, il y a une pépite.
Oui, il y a un petit épisode de X-Men to Serve and Protect, numéro 1, une petite histoire scénarisée par Brian Reed et dessinée par Pepe Larraz, sur Cypher. Cypher qui va arrêter des terroristes qui vont se suicider, qui vont se faire exploser de l'Hydra, voilà. Bon, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard.
Bon, ça sert à rien.
Voilà, tout juste à nous faire comprendre un petit peu le pouvoir, un peu plus le pouvoir de Cypher, qui, je trouve, est peut-être un personnage un peu trop puissant maintenant.
Voilà, la manière dont ils exploitent son pouvoir, c'est vrai que ça le rend assez costaud. C'est...
Mais il ressemble un petit peu à... Comment s'appelait-il dans Authority ce personnage qui ressentait la ville, justement, et qui tirait sa force de la ville.
Là, je ne saurais pas te dire.
Ah, je ne sais plus. Son nom m'échappe. Mais enfin, voilà, quoi. Là, il est capable de communiquer avec la ville, de ressentir ce que veut lui dire la ville. Enfin, son pouvoir devient de plus en plus puissant, quoi. Alors, certes, il n'est pas forcément capable de se battre, mais il est extrêmement puissant.
Alors que pour se battre, il pourrait tout simplement décrypter le langage corporel.
Mais c'est ce qu'il fait déjà.
C'est ce qu'il fait, oui. C'est bien ce qui me semblait.
C'est ce qu'il fait déjà, mais enfin, c'est pas ce qu'on appelle un heavy hitter, quoi. C'est pas un rogue ou un colossus. Enfin, il n'est pas capable de faire traverser trois murs en envoyant une patate à quelqu'un, quoi. Mais bon, je pense que c'est un personnage qu'il faut surveiller, en tout cas d'un point de vue scénaristique, parce que on peut vite se laisser déborder par un personnage. Actuellement, il est plutôt bien exploité. Là d'ailleurs, Dan Abnett et Andy Lanning en font un des éléments centraux de leur récit, puisque c'est sa boulette qui cause pas mal de problèmes. Mais voilà, il faut faire attention à ne pas se laisser déborder par un personnage qui est à ce point puissant.
C'est clair. Voilà, là, ce coup-ci, je crois qu'on a fini avec...
On a fini avec la partie X-Men, oui. On a peut-être même un petit peu été trop long sur la partie X-Men, mais après tout, c'est quand même un univers que on apprécie. Et que, enfin, personnellement, je n'apprécie pas autant de voir... Je vais saccager, c'est peut-être un peu fort, mais il y a tellement de potentiel pour les X-Men. On a eu tellement de bonnes histoires à travers les âges que les voir tomber presque aussi bas, peut-être un peu dur, mais en tout cas, de voir qu'il y a un certain manque de créativité sur les X-Men en général, c'est un peu désolant, je trouve.
Bah peut-être que ça repartira mieux après AVX.
Oh, déjà, après Schism, nous aurons droit à Wolverine and the X-Men, qui est vraiment la série à suivre.
Oui.
Vous verrez ça à partir du mois de juillet, je crois, dans les pages de Wolverine, et c'est vraiment, vraiment une série à suivre.
D'accord. Moi, je l'attends comme le loup blanc, on va dire.
non, vraiment, c'est vraiment très, 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 très bon.
Bon,
je pèse mes mots, ça faisait longtemps que j'avais pas lu du X-Men aussi bon, quoi.
Wolverine, une fois de plus, est sous les feux de la rampe, mais bon, si c'est du bon X-Men, moi je suis preneur.
Ouais, mais ça s'appelle Wolverine and the X-Men, mais il n'y a pas que lui dans l'histoire, c'est ça qui est intéressant.
Ouais, c'est clair.
Bon, on en reparle très très bientôt, puisque ça va bientôt sortir en français. On va faire un petit tour du côté des Avengers. Je vais aller rapidement, je vais parler surtout des changements qu'il y a ce mois-ci dans les pages, donc on va commencer par le Marvel Stars. On a donc le Thunderbolts numéro 163. Alors je vais pas faire tous les épisodes de tous les mags, hein, je vais juste parler des plus importants. Thunderbolts, qui est scénarisé par Jeff Parker et avec au dessin Kev Walker. Et c'est le premier épisode de la nouvelle direction que va prendre le titre suite à Fear Itself. À la fin du dernier épisode, on a vu que cette nouvelle équipe de Thunderbolts, c'est Thunderbolts B, ou c'est Underbolts, comme il s'appelait un petit peu de façon péjorative, s'est échappé. Ils se sont barrés, ils sont en fuite, et donc maintenant on va le suivre. Et donc les Thunderbolts vont reprendre ce côté équipe de vilains déguisés. Enfin, là ils sont pas forcément déguisés, ils sont en fuite, mais ça revient un peu au même, quoi. Donc on va vraiment suivre les vilains et non plus Luke Cage qui va entraîner des apprentis héros.
Mmh.
Bon, c'est sympathique, là le petit twist c'est que en s'échappant, ils se sont téléportés, mais pas forcément au bon endroit, et pas forcément quand ils voulaient. Voilà, je n'en dirai pas plus.
D'accord. Mais on retrouve donc un petit peu ce qu'on avait sur les Dark Avengers.
En quelque sorte, sauf que là ils ont pas de chef, quoi. C'est-à-dire que là dans l'équipe on va retrouver Fixer qui était parti avec eux, Captain Boomerang, non pas Captain Boomerang, c'est chez DC, c'est Boomerang tout court, je crois. L'ancien ennemi de Spider-Man et d'Iron Man notamment.
Mm-hmm.
Y a ce scientifique qui se prend pas pour de la merde, je me rappelle plus son nom, qui se croit super à tout le monde, je me rappelle plus du tout comment il s'appelle.
Ouais, je vois qui, pareil, son nom m'échappe.
Qui sert un petit peu de chef d'équipe. Satana est parti avec eux aussi, Moonstone, donc on a une joyeuse bande d'emmerdeurs. Voilà. Et il y a Troll aussi qui est parti avec eux, et Mr. Hyde. Voilà, c'est ce que j'avais oublié.
Ok, oui. Ça change un petit peu de l'équipe des Dark Avengers quand même.
Bien sûr, on aura un Luke Cage, Songbird et McFive qui vont essayer de partir chercher cette équipe. Faudra voir ce que ça donne. Le premier numéro est sympathique, même si le côté oh là là, mais où on est et surtout quand on est, c'est un petit peu facile. Mais ça laisse amener une scène assez comique sur la fin. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. On avait un épisode et demi de Hulk. Bon, la fin de l'arc avec Omegex, c'est franchement pas très bon. Je vais pas aller plus loin, c'est franchement pas bon.
Mais alors tu l'as lu alors que c'est un épisode et demi avec
il y avait la première moitié dans le mois dernier et donc là il y avait la fin.
D'accord, ouais, voilà, ça t'a permis de finir de tout lire quoi.
Ouais, c'est la deuxième moitié de l'épisode 40 et l'épisode 41. Mais franchement, c'est pas très bon. On a Secret Avengers que je n'ai pas lu, donc je ne vais pas en parler, et on a surtout le premier épisode de Incredible Hulk, la nouvelle série, scénarisée par Jason Aaron, au dessin Mark Silvestri. Alors Mark Silvestri ne sera pas là pour longtemps puisqu'il s'est pété le bras, et donc il a été vite obligé d'abandonner les dessins au profit, et malheureusement pour nous, Walt Sportacio, qui est absolument indigeste sur ce titre. Pour avoir lu la suite, c'est pour ça que je peux en parler. Et il est franchement pas du tout inspiré. On est loin du grand Walt Sportacio que l'on avait à l'époque des X-Men ou encore de Wetworks et autres projets comme ça.
Puis avec un bras dans le plâtre, c'est sûr que ça va être difficile de dessiner.
Ben voilà, c'est pour ça que Mark Silvestri a été obligé de s'arrêter. Mmh. Alors, le scénario de Hulk, cette nouvelle série, change radicalement avec ce qu'on avait dans Marvel Saga, notamment par Greg Pak. On part sur tout autre chose, on a un Hulk seul. Parce que suite à la fin de Fear Itself, alors je vais être obligé de spoiler un petit peu, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, c'était le dernier numéro de Fear Itself ce mois-ci. C'est enfin terminé, on aura les conséquences le mois prochain, mais c'est enfin terminé, le calvaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé d'ailleurs de Fear Itself, au passage. Est-ce que, comme nous, vous avez trouvé que c'était pas bien? Ou est-ce que vous avez apprécié? Et surtout, n'hésitez pas à nous dire pourquoi, d'ailleurs. Parce que ça nous intéresse d'avoir aussi vos avis d'auditeurs et de lecteurs de comics.
Mais Nono a aimé Fear Itself?
Nono lui a aimé, oui. Nono lui a aimé.
C'est ce qui me semble.
Aussi parce que c'était un des premiers events qu'il pouvait suivre en VO au mois le mois. Mmh. Ça a joué aussi, je pense, dans sa perception.
Ouais, ça joue.
Et puis bon, c'était pas forcément quelque chose qu'il avait déjà vu ou ce genre de truc. Bon, après, voilà, moi, Fear Itself, ça m'est passé, mais vraiment au-dessus, quoi. Et ouais. Pourtant, j'ai tout lu. Hein.
Moi, j'ai pas pu.
Je me suis forcé. Alors, honnêtement, je me suis forcé. Alors, ce Hulk, à la fin de Fear Itself, Hulk et Banner ont été séparés. Ça rappelle un petit peu ce qu'on avait vu dans Onslaught.
Ouais.
Un autre crossover de l'époque. Sauf que maintenant, Hulk est seul. Et Hulk a élu domicile dans les cavernes des Moloïdes. Où il va être tranquille, il veut juste qu'on lui foute la paix. Il bosse avec les Moloïdes, enfin il bosse. C'est-à-dire qu'il chasse avec eux, il va taper du monstre souterrain gigantesque, etc. Il est très content. Sauf que une certaine Victoria Von Doom, aucun lien, c'est bien précisé. Elle le dit elle-même, hein, d'ailleurs, ça me fait penser toujours à Serge Karamazov, aucun lien.
C'est ce que j'allais dire.
qui travaille pour le gouvernement, a décidé de venir le chercher parce que Banner a pété les plombs. Et on voit ce qu'il est advenu de Banner, et c'est pas joli. Je n'en dirai pas plus. C'est assez sympa à lire, il y a du potentiel. Moi qui ai lu la suite, je peux vous dire que c'est plutôt pas mal. Il y a quelques incohérences de temps en temps, mais bon. Mmh. Voilà, c'est sympa. Malheureusement, c'est l'épisode qui ressort le plus du mag. Bon, comme j'ai dit, j'ai pas lu Secret Avengers. De ce que j'ai lu, c'est l'épisode qui ressort le plus du mag. Est-ce que cela vaut l'achat juste pour cet épisode-là? Je suis pas certain.
Ok.
En tout cas, c'est vraiment le magazine Hulk, puisqu'on a quand même deux épisodes et demi de Hulk. On continue avec le Marvel Heroes numéro 16. Deux épisodes et demi de Journey to Mystery. Donc la fin du 628, le 629 et 630 qui clôt le chapitre Fear Itself. Alors, au niveau des crédits, on a Kieron Gillen au scénario pour tous les épisodes, Walt Sportacio pour le 628 et 629, malheureusement. Et pour le 630, nous avons Rich Elson, qui a un style vraiment différent et beaucoup plus lisible. On voit la fin des machinations de Loki, et comment, sans que personne le sache, Loki a pu faire en sorte que le serpent soit vaincu. Voilà, c'est toujours très sympa, c'est super bien écrit. Et Kieron Gillen est tellement plus à l'aise sur Journey into Mystery que sur Uncanny X-Men.
Ah, c'est à ce point remarquable.
Ah, mais c'est franchement, c'est vraiment en tout cas en termes de connotation Avengers, puisque ça reste dans le monde de Thor, c'est ma série préférée. C'est vraiment des machinations. On voit Loki jeune qui essaye de en même temps de grandir et d'un côté de redevenir un petit peu ce qu'il était, parce que il est et il reste le dieu de la tromperie, mais en même temps il essaye de s'améliorer, et c'est toute cette dualité qui est vraiment bien faite, quoi. On voit un Loki qui est en apparence plus sympa, mais qui fait toujours autant de coups tordus, même si cette fois-ci c'est pour être du bon côté, il fait des coups aussi tordus que son ancien lui.
Ah oui, sa nature profonde reste la même, quoi.
C'est superbement bien écrit, vraiment une vraie pépite. Et ce numéro 630, par contre, est un petit peu à part, puisque même s'il est toujours tagué Fear Itself, c'est la véritable histoire de Fear Itself racontée par Volstagg à ses enfants.
Ça doit valoir son pesant de cacahuètes.
C'est fait sous forme de petits contes, et c'est vraiment super sympa. On peut pas s'empêcher de ressentir énormément d'empathie pour ce pauvre Volstagg qui n'a qu'une seule envie, c'est juste que ses enfants restent un petit peu plus innocents, un petit peu plus longtemps.
Voilà. C'est mignon.
Là encore une fois, c'est bien écrit, ça touche un petit peu à la corde sensible, sans être non plus larmoyant.
Ça fait pas dans le pathos, quoi.
Ouais, voilà, c'est juste une bonne histoire d'un bon papa pour ses enfants. Elle me racontait avec beaucoup d'humour, et on comprend aussi quel a été le rôle de Volstagg durant Fear Itself, puisqu'on ne l'avait pas vu dans Fear Itself, et on sait maintenant où il est passé. Et la petite surprise vaut son pesant d'or, franchement.
D'accord.
On continue vite fait avec le Avengers numéro 18. Brian Bendis au scénario avec Daniel Acuna au dessin. Bah là, on va revenir sur pas mal d'événements. Une scientifique qui travaille pour le gouvernement, on la voit passer à travers tous les grands événements qu'il y a eu, c'est-à-dire Civil War, puis donc la mort de Goliath, puis la mort de Captain America. Qu'est-ce qu'on a encore? On a du la Secret Invasion, etc., etc. On voit les Avengers faire face au fait que la tour a été détruite et que donc ils vont tous s'installer dans cette grande maison, l'ancienne maison de Tony Stark, hein, que Luke Cage a racheté et dans laquelle il héberge les New Avengers. Et cette révélation finale de pourquoi cette scientifique a piqué un petit peu du matériel un peu partout, du matériel génétique des super-héros sur toutes les crises où elle a été. Joli retournement de situation. Dernière page très impressionnante qui laisse entrevoir de bonnes choses si c'est bien écrit pour la suite. Le grand retour d'un ennemi. Voilà.
C'est pas un vieux serpent sorti de derrière les fagots ce coup-ci.
Voilà, je pourrais pas en dire plus. Disons que cette fois-ci, il n'est plus tout seul, il est accompagné.
Ah, il a trouvé une copine.
Ou plusieurs.
Ah ouais, quand même.
Il doit être polygame.
C'est Mandrill, il a plein de copines avec lui. Ça promet du bon.
Ça promet du bon. Pour terminer, on a le Avengers Academy numéro 21, qui est là aussi le premier numéro d'une nouvelle direction pour l'équipe. Fini la Infinite Mansion dans laquelle ils étaient, cette maison où chaque porte ouvrait sur n'importe où dans le monde. Hank Pym a décidé de réouvrir l'ancien quartier général des Avengers de la côte ouest pour héberger l'Académie des Vengeurs, où dans laquelle il va être recruté plein de nouveaux super-héros en devenir. Des gens qui ont besoin qu'on leur apprenne à maîtriser leur pouvoir et qui ne sont pas des mutants, bien évidemment.
C'est un peu le mois du déménagement chez les Avengers, en général.
Ouais, c'est ça. Super bien écrit, comme d'habitude. De nouveaux personnages vont rejoindre cette équipe que l'on suit des Avengers Academy. Et puis, un meurtre, à la fin, qu'il va falloir élucider. Et une dernière page qui fait waouh. Pour quiconque a lu la série, va tout de suite comprendre de quoi on parle. Et là, ça devient tout de suite très 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 intéressant. Donc une nouvelle direction qui démarre plutôt bien et voilà, finalement un très bon Marvel Heroes pour moi. On a deux épisodes et demi de Journey into Mystery qui sont géniaux, un Avengers qui est plutôt pas mal, et puis un Avengers Academy qui est très très bon comme d'habitude. Donc pour moi, une des meilleures lectures en ce qui concerne les Avengers. Je vais finir avec une partie du Avengers numéro 5 avec deux épisodes de Children's Crusade. Toujours Alan Enberg au scénario avec Jim Chung au dessin. Je peux même pas résumer vraiment puisque il se passe tellement de choses, c'est un cliffhanger tous les 2-3 pages, ça bouge dans tous les sens, on n'a pas une minute pour souffler, mais en même temps, c'est pas too much, quoi. C'est-à-dire que on lit ça, c'est haletant, mais on n'est pas genre arrêté, j'en peux plus, quoi.
D'accord.
C'est, enfin, je sais pas comment l'expliquer, quoi. On va avoir un retour dans le temps. On va avoir la sorcière rouge qui va finalement peut-être commencer à se rappeler de qui elle est vraiment et de ce qu'elle a fait.
Et débloquera-t-elle la situation ou...
Et débloquera-t-elle la situation vis-à-vis des mutants? Et bien tout ça, vous aurez la réponse dedans. Et voilà. Par contre, à réserver à des gens qui connaissent un minimum l'univers Marvel, parce que là, voilà, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses passer. Je peux pas en dire plus, mais c'est vraiment la lecture absolue Avengers à faire. Il n'y a pas meilleure lecture actuellement. Moi, je lis ça, j'ai le sourire tout le temps. Quand j'ai terminé, je referme le bouquin et je suis là avec le sourire pendant 5 minutes, tellement c'est bon, quoi.
Et ça intéressera aussi les fans des mutants, puisqu'on parle de la sorcière rouge.
Oui, et puis, y a plus juste au titre, puisque cette fois-ci, ils viennent, les mutants. On les voit vraiment apparaître au-delà de juste Wolverine que l'on voit depuis le premier épisode, c'est-à-dire qu'on voit les X-Men débarquer.
Et je vais essayer de me trouver cette saga en entier.
Il existe des TPB déjà et c'est vraiment très très bon.
Ouais, bah j'irai. Bah tiens, j'essaierai de le prendre en VO. Je vais demander à un copain bouquiniste qui peut me commander un peu de tout. Et lui, il fait plus du manga, mais il peut me commander des comics. Donc je vais faire
Mais
des
sinon,
essais.
puisque tu es sur l'île, hein, il y a aussi Astro City, hein, n'oublie pas.
Oui, c'est vrai. Il y a aussi
Si tu es
Astro
dans le coin,
City, pas très loin. Exactement.
qui devrait sûrement l'avoir, hein, puisque.
Ah, s'ils l'ont au magasin, ouais, c'est vrai que ça peut être plus pratique que d'attendre la commande.
Mais au niveau anglais, enfin, c'est pas, y a beaucoup de textes, mais enfin, voilà, c'est de l'anglais relativement facile d'accès, quoi. C'est pas du Bendis non plus, mais voilà, c'est facile d'accès. Il y avait aussi un Captain America et les Captain America numéro 4 et le Mighty Thor numéro 6, mais bon, je vais pas en parler. Voilà, c'est surtout, c'est vraiment le magazine vaut pour l'achat rien que pour ces deux Children's Crusade. On va terminer le côté Panini avec la librairie. Je vais faire très très vite. On a une mini-série Captain America Man Out of Time qui est sortie. C'est scénarisé par Mark Waid avec Jorge Molina au dessin.
À tes souhaits.
Et Carl Kazel à l'ancrage. Oui, George, si on veut le prononcer. Ok, Jorge. Jorge Molina. J'essaye de le prononcer correctement, mais je suis pas très très fan de l'espagnol. Enfin, c'est pas que je suis pas très très fan, c'est que je ne le parle pas du tout. Donc voilà, c'est un peu plus dur.
Moi non plus.
Alors, cette mini-série va s'intéresser à Captain America, hein, comme son nom l'indique, mais un Captain America qui vient juste d'être libéré des glaces par les Avengers. Et on va voir comment il va gérer tout ça. Sauf que cette fois-ci, il n'est pas libéré au moment du début des Avengers dans les années 60, ni même au moment des années 90, il est libéré à notre époque, hein. Il y a Internet, il y a les téléphones portables, etc.
C'est Ultimate, ça.
Une sorte de modernisation, mais on est très proche, hein, du Captain America 616, enfin c'est le Captain America 616, hein. C'est juste une réinterprétation des origines modernisées.
Ouais, c'est pas what if si Captain America sera réveillé un peu plus tard.
Non,
Non, même pas.
je sais pas s'il faut vraiment tenir compte dans la continuité, je sais pas si ça a vraiment été rendu canon, mais en tout cas ça pourrait parce que il n'y a pas d'élément qui choque, quoi. C'est juste qu'on voit une aventure de Captain America, une des premières aventures de Captain America à notre époque et comment il essaye de s'adapter à notre monde, à ce nouveau monde de technologie trop rapide, etc. C'est bien écrit, c'est écrit par Mark Waid. Donc déjà, enfin, c'est un gage de sécurité. Une bonne mini. Franchement, moi j'ai apprécié ma lecture. Il y a quelques moments. Alors, c'est comme je dis, on voit Captain America qui s'adapte, mais on voit aussi les premières aventures des Avengers. Notamment, on entend parler de cette Kree Skrull War, ce genre de choses. Donc, on fait vraiment un passage dans le temps, quoi. Et
D'accord.
notamment un gros combat contre Kang. Donc,
OK.
vraiment sympa. Ça ne changera pas les fondements du personnage. Mais c'est un bon moyen aussi de découvrir le personnage si on ne le connaît pas ou on ne connaît que très très peu et qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus.
Donc c'est pas un point 1, mais c'est un bon jumping point.
Exactement, voilà, ça permet de comprendre qui est ce personnage de Captain America, quels sont ses enjeux, qu'est-ce qu'il ressent, lui qui a été élevé dans les années 40, enfin en tout cas qui a été élevé dans les années 30 et qui est passé à l'âge adulte dans les années 40 et se retrouvait aujourd'hui à notre époque, quoi.
Comme quoi, je profite pour faire un petit aparté, le principe du point 1 est pas mauvais, mais quand on se donne les moyens, quoi. Ça me fait vraiment penser à ça, là.
Bah c'est un peu ça, ouais, voilà. Puis bon, faut mettre aussi des bons auteurs, quoi. Mark Waid, ça marche tout de suite.
Oui, voilà, on s'en donne les moyens.
Était sorti aussi John Carter, Princess of Mars, qui est donc une adaptation, une mini-série en 5 épisodes. Une adaptation de John Carter, je pense que c'est peut-être une adaptation plus du roman que du film.
Je pense aussi, ouais.
C'était aussi un moyen pour Marvel et donc Disney de sortir des comics tagués John Carter, puisque c'est eux qui ont produit le film, sachant qu'il existe déjà des séries chez Dynamite.
Ouais.
Alors, j'ai commencé à le lire. C'est pas que c'est mal écrit, c'est pas que c'est pas bien. Bon, y a des gros passages qui diffèrent du film, honnêtement. J'ai juste arrêté parce que c'est très laid. Ouais. Je n'aime pas dire, j'aime pas balancer comme ça, mais là, franchement, c'est vraiment très, 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 très moche, quoi.
Et ben moi, j'ai feuilleté et j'ai pas acheté parce que c'est très laid aussi. C'est pour la même raison. En fait, ça m'a vraiment, je me suis dit, non, je vais pas foutre du pognon là-dedans. Ça me plaira pas graphiquement. Je le sais. Tant pis.
Alors, c'est scénarisé par Roger Langridge, Monsieur Muppets, entre autres, qui travaille pas mal chez Boom aussi actuellement. De ce côté-là, au niveau du scénario, on a quelqu'un bien connu. Par contre, au niveau du dessin, on a Felipe Andrade. Et vous inquiétez pas que je vais retenir son prénom, éviter tous ses projets comme la peste. Non, mais franchement, je lis de l'indé, donc je lis des fois des trucs avec des dessins qui sont pas très heureux. Mais là, c'est brouillon, quoi. C'est brouillon. Ce monsieur aurait déjà fort besoin d'un encreur, parce que son ancrage est très laid. Et il y a des moments où on ne comprend rien de ce qui se passe, quoi. C'est franchement, il y a des scènes de bagarre, on voit rien, on sait même pas qui est qui. Au niveau du design, ça m'a fait penser à Hercule de Disney.
Ah oui.
Le personnage John Carter ressemble au Hercule de Disney. Alors déjà que j'ai détesté le design de Hercule, ça n'a pas rangé.
Ah, c'était très carré. Hein.
Mais là, c'est un peu le même principe, quoi. Sauf qu'il a le menton en pointe. Mais j'ai vraiment eu cette impression et non. Pour moi, c'est peut-être que l'histoire est bien, mais j'ai pas pu aller au bout à cause des dessins et c'est rare quand ça m'arrive. Mais là, j'ai vraiment pas pu, quoi. C'était véritablement une torture pour les yeux.
D'accord.
Donc, selon mon avis, c'est à éviter. Après, si vous êtes fan de John Carter, faites le test, feuilletez-le avant quand même. Hein, je pense que tu peux confirmer qu'il vaut mieux le feuilleter.
Il vaut mieux le feuilleter, oui.
On continue avec un Monster Fear Itself qui nous présente les dernières mini-séries qui n'étaient pas sorties. On a la mini-série Youth in Revolt, que je n'ai pas lue, donc je ne parlerai pas. La mini-série Hulk vs Dracula, dont j'ai entendu tellement de pas bien que je ne vais pas la lire.
Encore des vampires.
Ouais, mais c'est ça, c'est pour relier avec ce Curse of the Vampires, Curse of the Mutants. Toutes ces histoires de vampires dont on avait dit que ce serait une grosse menace et que finalement personne les utilise parce que tout le monde s'en fout. Donc là, on fait bastonner Dracula contre Hulk. C'est écrit par Victor Gichler, bien sûr. Et on a surtout les 7 chapitres qui étaient publiés dans les 7 épisodes de Fear Itself, The Home Front, de Speedball, toute l'histoire de Speedball. Ouais. C'est écrit par Christos Gage et c'est dessiné par Mike Mayhew. C'est superbe. Déjà, niveau dessin, c'est superbe. C'est vraiment très très beau, très proche du photoréalisme. Il s'est servi, je pense, de pas mal de modèles pour les personnages, notamment cette femme, puisque Speedball va repartir. Ça commence en fait juste avant Fear Itself. Speedball va partir à Stamford pour travailler avec les bénévoles qui essayent d'améliorer la ville, etc. Il se fait passer pour un bénévole sous son identité civile. Bien sûr, il va être démasqué. Et cette responsable qui a fondé cette association caritative, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a utilisé une actrice de série ou truc comme ça, mais j'ai jamais réussi à retrouver le nom. J'arrive pas à mettre un nom sur le visage, mais en tout cas sa tête me dit quelque chose. Elle va le démasquer, mais les événements de Fear Itself vont commencer et finalement Speedball va se retrouver au milieu de tout ça entre des gens à Stamford qui veulent le buter, les événements de Fear Itself qui détruisent tout sur leur passage. Donc voilà, comment va-t-il s'en sortir? C'est vraiment bien écrit. C'est écrit par Christos Engage qui connaît déjà un petit peu le personnage puisqu'il l'écrit au sein de Avengers Academy. Une très bonne histoire. Une très très bonne histoire. Maintenant, comme je n'ai pas lu Youth in Revolt, je peux pas me prononcer. Youth in Revolt est écrit par Sean McKeever, qui a l'habitude de gérer des personnages plus jeunes. Comme ça s'intéresse à des personnages jeunes comme Firestar, je sais plus comment ça s'appelle, Thor Girl ou quelque chose comme ça. Des personnages assez jeunes. Lizard aussi, qu'on voyait dans les pages de Avengers Initiative à l'époque.
D'accord, oui.
Enfin voilà, c'est vraiment des personnages jeunes. On a ce passage de Fear Itself avec Speedball et puis Hulk versus Dracula. Donc pour Homefront est très sympa, Hulk versus Dracula est sûrement très mauvais. Fear Itself, Fear Revolt, je n'en sais rien. Donc là encore une fois, à vous de voir. C'est le dernier Monster sur Fear Itself. Si vous avez vraiment aimé le crossover, vous voulez en voir plus, faites-vous plaisir. Dernière librairie chez Panini, c'est la sortie de Doctor Sleepless. C'est écrit par Warren Ellis et dessiné par Ivan Rodriguez. Doctor Sleepless, c'est ni plus ni moins qu'un nouvel essai de Warren Ellis de nous faire du Transmétropolitan. Avec un autre thème, un mec qui pète les plombs, qui est un savant, qui se fait appeler le Docteur Sleepless, parce qu'apparemment il n'a pas dormi depuis un an.
Ah bah faut prendre des cachets.
Il est pas très bien. On est dans un futur très dystopien, assez proche d'un 1984, même si c'est pas forcément contrôlé par le gouvernement. Les gens sont toujours en relation avec les autres. On n'a plus de téléphone portable, hein, ou accès à Internet comme ça. On a carrément une lentille qui nous permet de savoir où sont nos amis, etc. Et on va voir toute cette évolution futuriste, dans le mauvais sens du terme, en quelque sorte. Et puis, il y aura d'autres choses, puisque ce docteur Sleepless est finalement quelqu'un qui a disparu depuis un an. Sa petite amie le reconnaît. Il va devenir un espèce de grand prophète vis-à-vis des masses.
Oui.
C'est très Warren Ellis, quoi. Comme je dis, c'est très Transmétropolitan, mais appliqué déjà plus récent. Et donc, avec des choses plus proches de ce que l'on connaît aujourd'hui, des possibilités de dérive dans le futur. Et puis en même temps, voilà, encore pas mal, comme d'habitude avec Warren Ellis, hein, les problèmes de tout le monde est connecté, les médias qui déraillent, la drogue omniprésente, les gens qui modifient leur corps. Tous ces thèmes qu'on a pu voir dans Transmétropolitane sont réappliqués dans Doctor Sleepless. Comme je disais dans les news, il y aura le prochain tome en octobre ou novembre. À savoir que c'est une des séries, j'en parlais la dernière fois, quand il y avait la sortie de Greyvol, je sais pas si tu t'en rappelles, le mois dernier, je disais
Oui, tout
qu'il y
à
avait
fait,
certaines
ouais.
séries qui n'avaient pas pu finir. Alors Greyvol, j'ai vérifié depuis, Greyvol est terminé, il a pu terminer la série. Par contre, Dr. Sleepless fait partie de ces séries qui n'ont pas été terminées suite à ses gros crashs de disque dur, où il a perdu toutes ses notes. Il prévoit de sortir, enfin il prévoyait, parce que nous sommes déjà en mai, même en juin, à 2 jours près, il prévoyait de sortir un épisode 14. La série était censée s'arrêter au numéro 16. Et il prévoyait de sortir un gros épisode 14, double size ou triple size, qui conclurait la série, qui était prévu pour le début 2012. On
Oui.
arrive en juin, toujours pas
Toujours rien.
annoncé. Voilà.
Oui.
Et d'ailleurs, il était à l'Acapao et il n'en a pas parlé à l'Acapao. Il a simplement dit qu'il commençait à en avoir ras-le-bol du comics.
Ah d'accord.
Ça
C'est
laisse.
peut-être.
Voilà, il commence à en avoir un peu marre de ce média et surtout des deadlines. C'est pour ça qu'il s'est d'ailleurs assez récemment distancié avec Avatar.
Ah oui, mais dans n'importe quel milieu professionnel, des deadlines, t'en as.
Mais
C'est con, hein, mais.
disons qu'il en a marre de devoir écrire tous les jours pour des deadlines qui sont assez difficiles à tenir. Voilà, il se concentre plus sur ses romans actuellement. Donc bah Docteur Sleepless, on a déjà vu pas mal de choses dans Transmet. C'est réadapté avec 10 années de plus. J'ai pas trouvé la lecture essentielle. Il y a du potentiel, mais j'ai pas trouvé ça essentiel, quoi. Faut aimer le Warren Ellis.
Il
Si
tourne
on
un
aime le
petit peu
Warren
en
Ellis, on
rond,
adorera.
quoi. En fait, il
Comment?
tourne un petit peu en rond par rapport à Transmet, du coup.
Un petit peu, ouais. Même si c'est là, cette fois-ci, c'est pas un journaliste, mais un espèce de docteur, enfin un mec qui s'autoproclame docteur et qui va devenir une espèce de prophète des ondes. Avec
Ouais.
bien sûr une histoire un peu plus complexe derrière dont je vais pas révéler les tenants et les aboutissants maintenant, à vous de le découvrir. Pour moi, c'est pas essentiel comme lecture.
Ok.
Bon, en tout cas, on continue d'avoir des projets Avatar chez Panini aussi, et c'est sympa d'avoir un peu plus de choses de présenter.
Oui, de sortir du Marvel, parce que Marvel, il y en a énormément, quoi.
Justement, ça conclut notre partie Panini. Je vais juste signaler qu'on avait pas mal de rééditions de Spider-Man ce mois-ci, hein, pour les fans du teaser. On avait La mort de Jane the Wolf, qui est réimprimée dans un best-of Marvel. On avait un Spider-Man classique, avec une saga du costume noir juste après les Secret Wars, quand il revenait avec son costume noir. Donc ça, c'était du kiosque, par contre. Et on avait aussi en Marvel Gold, La dernière chasse de Kraven, 16,30€. C'est pas très cher pour un assez gros monument de l'histoire de Spider-Man.
Oui, et puis c'est spécial anniversaire, ça, je pense.
Ouais, c'est pour les 50 ans, ouais.
Et
Beaucoup de choses ressortent. Ouais.
ils vont continuer en juillet avec l'intégrale Spider-Man 65 réédité en version 50 ans.
Ça, c'est plutôt pas mal, les premières intégrales qui rééditent comme ça, qui sont aujourd'hui introuvables, puisqu'elles ont quand même commencé à sortir il y a 10 ans maintenant.
Moi, j'avais commencé celle des X-Men et puis j'ai abandonné au bout d'un moment parce que ça faisait une belle somme à sortir régulièrement, j'étais étudiant.
Eh oui.
Et maintenant, ça fait une belle somme à sortir parce qu'elles sont trouvables.
Eh bien justement, tu as une intégrale X-Men ce mois-ci, hein, deuxième partie de 1988.
Ah oui, mais moi, je suis resté bloqué dans les années 70.
Notez aussi la réédition de Annihilation Conquest en Marvel Deluxe.
Tout à fait.
Un des gros crossovers du Cosmic par Dan Abnett et Andy Lanning avec Christos Engage aussi, Keith Giffen. Donc, voilà, du très très bon si vous l'avez raté à l'époque, parce qu'aujourd'hui ça va devenir très très dur à trouver dans les pages des kiosques dans lesquels ça a été publié.
Ok.
On a fait le tour de la partie Panini, on va passer maintenant à la partie urbaine. À la partie urbaine, on va faire assez vite, on va traiter du kiosque qui est sorti malheureusement en fin de mois dernier. Donc on va commencer par le Green Lantern Showcase numéro 2, qui était donc la fin de la saga de Green
Wow,
Lantern,
the Green
War of the Green
Lantern.
Lantern. Si je le dis dans le bon sens, c'est mieux. Alors, on a du Peter Tomasi, du Geoff Jones et du
Monkey.
Doug, non, c'est pas lui que je cherchais,
Tony
c'est
Bédard.
et du Tony Bédard au scénario.
Ah
Merci.
oui, lui c'est là.
Et pour les dessins, on a du Doug Mankey, on a du Fernando Pasarin
Et Tyler Kirkham.
et du Tyler Kirkham. Donc franchement, des équipes de choc.
Qui n'ont rien acheté.
Ouais. Alors c'est la suite de ce crossover où c'était le retour de Krona qui a finalement construit les bagues. Ouais, construit la première lanterne. Et qui a décidé de prendre le Green Lantern Corps en otage et qu'ils deviennent tous à travailler pour lui.
Et qui a parasité les anneaux des Green Lantern, donc grâce à Parallax, ce qui lui permet justement de prendre le contrôle de ce plan-là. Du coup, nos quatre terriens ont fait le
Oui, parce que
choix.
c'était lui l'entité qui allait récupérer toutes les autres entités. Enfin, c'était lui le mec en capuche que l'on voyait au tout début de l'arc de Green Lantern, dont on n'a pas vu la fin, puisque c'est changé d'éditeur, et dont on aura la fin qu'en septembre.
Voilà, tout à fait.
Ça s'est dit au passage.
Voilà. Et pour ne plus avoir ce problème de bague parasitée, nos quatre Green Lantern terriens décident c'était à la fin du numéro 1, de prendre des bagues des autres corps. Donc on a Hal Jordan qui se retrouve avec la bague de la peur, Guy Gardner en rage, John Stewart avec la compassion, et enfin Kyle Rayner avec l'espoir.
C'est très fan service de nous montrer les Green Lanternes prendre d'autres couleurs.
Ouais.
Mais ça le fait, franchement.
Ça
C'est
le fait.
efficace, quoi. À part ce costume de John Stewart,
Ah, moi, il m'a fait hurler de rire.
je sais pas qui l'a designé, mais franchement, il aurait dû se casser le bras, là. Parce que
Bon.
franchement, le coup du bandeau, le petit truc sur les yeux et tout, mais...
Mais c'était pas sa guerre.
Mais ouais, mais c'est ça, quoi. C'est le Marine. The Marine, quoi. S'ils font une adaptation, faut appeler John Cena pour jouer. Putain, quelle honte.
Et on a le plan de Krona qui est révélé. Pourquoi il attaque le corps? Et les gardiens, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment sympa.
Et on a un final qui est saisissant.
Tout à fait.
C'est le retournement de situation auquel personne ne peut s'attendre.
Non, clairement, moi je l'ai pas vu venir, je l'ai pris dans la tronche et je me suis dit, ouais, quand même.
Et ce qui va embrayer sur cette nouvelle série Green Lantern à la suite du Reloge, puisque Green Lantern va réellement suivre les événements qu'il y a là. On va repartir de ce postulat de fin. C'est un peu bizarre de le dire dans ce sens-là, mais voilà, les choses vont évoluer à partir de là et vont prendre une toute autre tournure.
Donc
Clairement,
c'est un magazine à
à lire.
acheter.
Ah ouais, à acheter, à lire. Si vous l'avez pas acheté, que vous le trouvez pas, empruntez-le à un pote. Mais vraiment, ne passez pas à côté de ça.
Voilà, et puis pour traiter un peu du rédactionnel, Urban a bien fait les choses, hein, puisqu'il y a des petits rappels entre chaque épisode de qui fait quoi, qui est qui dans le corps des Green Lanternes. On arrive à resituer chacun des personnages principaux. Donc c'est agréable à lire, on aide le nouveau lecteur, Le Mag est bon, il se distingue, tu me demandais tout à l'heure en antenne si ça se distinguait des titres Panini. Oui, même la tranche est différente, il y a des petites différences, alors ça saute pas forcément tout de suite aux yeux, mais on voit quand même que c'est pas la même boîte d'édition.
Ah bah c'est bien, au moins que ce soit pas calqué, qu'on différencie bien les deux. Moi, je
Voilà,
trouve ça
moi
bien.
je trouve que ça se différencie, c'est discret, mais ça se différencie. Quand on regarde bien, ça se voit. Donc vraiment un bon mag.
Encore une fois, c'est vrai qu'on parle souvent du prix. Le fait que ce soit pas cher, c'est pas forcément ça veut pas forcément dire qu'il faille l'acheter, mais là, encore une fois, on a 5 épisodes pour 5,60 € si ma mémoire est bonne.
C'est ça, 5,60 € et 5 épisodes.
Franchement, enfin, c'est vraiment que dalle, quoi. Ça vous fait 1,20 € l'épisode, à peine, 1,15 €. Que demander de mieux,
C'est
honnêtement?
moins cher que le lire en VO.
Exactement. Par la suite, Urban va proposer 4 épisodes seulement au prix de 5,60 €. C'est plus cher, c'est sûr que Panini va beaucoup se démarquer là avec leurs épisodes qui vont faire moins d'1 € à partir du mois de juillet. Le prix n'est pas tout, c'est certain. La qualité de l'histoire y fait aussi s'il faut l'acheter ou pas, mais c'est vrai que là, faut pas hésiter, franchement. L'histoire est bonne, le prix est pas cher.
Oui,
Que demander de plus, quoi?
tout à fait. Par contre, c'était la fin du mois dernier, donc peut-être que vous aurez du mal à le trouver encore en kiosque. Ça...
Et en même temps, vu que le nouveau magazine s'appelle Green Lantern Saga, c'est pas le même titre, il se peut qu'il reste un peu plus longtemps dans les bacs.
C'est possible, c'est possible.
C'est vrai que les impératifs de ce mois-ci ont fait qu'on a enregistré plus tard. J'espère que le mois prochain, on pourra enregistrer aux alentours du 15 et pouvoir sortir l'émission entre le 15 et le 20, disons. Ce qui, bon, malheureusement, ça fait 2 mois de suite où on peut pas, mais voilà. Bon. Les choses sont comme ça. On va continuer avec le Batman Showcase numéro 2. 3, 4 épisodes de Batman. On a Batman et Robin 20, 21, 22 et le 26. Les trois premiers sont un seul et même arc écrit par Peter Tomasi, encore lui, avec Patrick Gleason au dessin et Mick Grell à l'ancrage. Un superbe arc. Plein de bons moments, avec toujours un Batman qui est Dick Grayson, hein, bien sûr, dans les rues de Gotham. Et donc on a cette relation entre Dick et Damian qui est vraiment super bien écrite par Peter Tomasi. Il s'en sort vachement bien. On a plein de petits moments, mais succulents, comme par exemple le commissaire Gordon qui menace Robin quand Robin voit un cadavre sur une table d'autopsie, quoi. Qui se fout un petit peu de la gueule du machin parce qu'il est dans un état pas très joli quand même. On a le commissaire Gordon qui lui dit, écoute, tu dis un mot de plus, je te retourne le bras, je te le pète, quoi. Je vais t'apprendre le respect, petit con. C'est grosso modo, c'est dit comme ça, quoi.
Ouais, il cadre le petit con, quoi.
Ah ouais, c'est ça, c'est plein de petits moments, des choses comme ça, des bonnes piques entre Dick et Damian. Et cette relation entre les deux marche super bien. Ils vont faire face à un nouvel ennemi qui tire son pouvoir de la lumière et qui veut purger Gotham de sa noirceur.
Ouh, du
C'est
boulot.
franchement, c'est bien écrit. Surtout que son plan est bien machiavélique. Bonne histoire, très très bonne histoire, j'ai même. Et le dernier épisode est différent, c'est un one-shot. Il est écrit par David Hein, avec Greg Tokini au dessin. Alors Greg Tokini au dessin, c'est très moyen. C'est très très moyen, c'est dommage parce que cette histoire aurait été un peu mieux mise en image. Je pense qu'elle aurait été carrément meilleure. Batman, toujours en tant que Dick, hein, et Damian vont devoir aller en France avec Nightrunner, hein, ce nouveau Batman français qu'on avait vu apparaître dans les pages de Batman Inc. Face à des ennemis qui se sont échappés du Jardin Noir. Alors le Jardin Noir, c'est l'équivalent d'Arkham Asylum, mais en France. Et tout l'épisode va se passer en France, avec des personnages tout nouveaux que l'on n'avait jamais vus avant, et qui sont vraiment super bizarres, et une fin d'épisode très glauque, très noire, et l'ennemi principal est un joli clin d'œil en fait à un autre personnage de l'univers de Batman. Je ne vais pas en dire plus, parce que c'est assez sympa à découvrir, on ne voit pas venir. Et c'est très drôle. Et une fin noire à souhait. Donc non, un bon petit mag avec du très bon Batman et Robin. Surtout cet arc écrit par Peter Tomasi. Et non, bah là encore une fois, pareil, si vous aimez Batman, passez pas à côté de ça parce que c'est bien écrit, ça fait plaisir de voir du bon Batman comme ça.
Ouais, on a des solides bases avec Green Lantern et Batman en ce moment chez DC, ça m'a l'air d'être
Ah bah
quelque
oui,
chose de
de toute
robuste,
façon.
quoi.
De toute façon, là, avec le relaunch, cette nouvelle trinité, hein, l'ancienne trinité que l'on connaissait, Batman, Superman, Wonder Woman, c'est depuis très longtemps terminé. Cette nouvelle trinité, avant le relaunch, c'était plutôt Batman, Green Lantern, Flash. Depuis le relaunch, c'est plutôt Batman, Green Lantern, Aquaman. Donc
D'accord.
vous savez les titres qu'il ne faut pas rater.
Et Flash n'est pas très très loin derrière, c'est peut-être une quadrinité.
Ouais, enfin, Flash est un peu plus mis de côté depuis ce relaunch.
Ouais.
Bah, tout simplement parce que Jeff Jones ne s'en occupe plus. Voilà, Batman reste Batman, surtout écrit par Scott Snyder, qui en va reprendre le titre principal,
ouais,
et qui a fait des merveilles sur les Detective Comics. Et d'ailleurs, son run est très très bon pour le moment. On a Green Lantern avec Jeff Jones en scénario et Aquaman avec Jeff Jones en scénario.
Et Justice League avec...
Oui, c'est lui au scénario, ouais. Je sais pas. Non. Moi, je me pose des questions, savoir si c'est lui au scénario. On en reparlera en France. On donnera notre avis,
à ce moment-là, enfin, oui. Non, je dis ça parce que je suis...
Pour la version française. Oui, tu suis les Weekly, voilà. Tu sais très bien ce que je pense, donc, de Justice League écrit par Jeff Jones. Même si le dernier épisode, vu que c'était l'épisode où je n'ai pas pu participer parce que j'étais à la CAPA, je l'ai trouvé très, 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 très bon.
D'accord.
Le meilleur épisode que j'ai pu lire jusqu'à présent, il fallait attendre le 9.
On en parlera dans 9 mois en France.
Ouais, bah peut-être même avant. Enfin, je sais pas trop. D'ailleurs, je sais pas du tout comment on va traiter les parutions du mois prochain, du coup, puisque traiter et en même temps du kiosque, on a les premiers numéros, et en même temps de la librairie, on a tout l'arc complet. Ça va pas forcément être très facile.
Non, en plus ils nous font chier. En plus, ils nous facilitent pas la tâche. Franchement.
Exactement. De toute façon, on va trouver une solution aussi le mois prochain, et je peux pas vous dire à l'avance comment ce sera traité, en tout cas. Reste à signaler aussi la parution le mois dernier donc de la fin de Flashpoint avec la mini-série Flashpoint Project Superman, qui est écrite par Scott Snyder, justement, et les deux derniers numéros de Flashpoint, donc pour voir la fin de ce gros événement qui amènera au relaunch. Bien, c'est tout pour notre épisode de ce mois-ci. On a fait plus long que ce que je croyais.
Bah oui, comme la dernière fois.
On se laisse emporter, on discute.
Voilà, c'est ça.
Mais quand on discute comics, nous ne voyons pas le temps passer.
C'est pas
faux. Tellement bon. Non mais voilà, on a deux événements qui se terminent, hein. On a Flashpoint qui s'est terminé fin du mois dernier, et puis on a Fear Itself qui s'est terminé ce mois-ci. On va pouvoir repartir sur de nouvelles choses. Rendez-vous le mois prochain pour savoir si tout ça c'est bien.
Oui, voilà.
Ça c'est du teasing, hein.
Tout à fait. Et puis continuez à venir sur le site, à lire les articles, à nous suivre sur Facebook et Twitter. Ouais, je te pique un peu ton boulot là, Steve.
Non mais c'est très bien, ça m'évite de le faire, parce que tu peux savoir comme c'est monotone de le redire chaque semaine.
Voilà, moi j'ai pas encore l'habitude, donc j'en profite.
Et puis n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse podcast@comiccity.fr. Si vous nous posez une petite question, eh bien nous y répondrons en fin d'émission. Et précisez-nous d'ailleurs si c'est plutôt une question qui s'adresse au Comics Weekly ou au Comic City. En tout cas, dans lequel des deux podcasts vous voulez qu'on y réponde, suivant le podcast que vous écoutez, bien évidemment. Très dommage qu'on réponde à une question dans le Weekly alors que vous n'écoutez que le Comic City.
Et si les gens ils posent une question pour qu'on réponde dans un spécial, on fait comment?
Ben, je ne sais pas. À noter d'ailleurs qu'on vous prépare, si on arrive à trouver un peu de temps ce mois-ci, un petit spécial, vraiment spécial cette fois-ci, avec toute l'équipe. J'en dis pas plus, je vous laisse le teasing. Et n'oubliez pas, pour ceux qui suivent aussi le Weekly, que nous ferons un numéro 100, là aussi spécial, en direct, le 22 juin, à partir de 21h. De toute façon, on en reparle sur Facebook, on en reparle sur le site. Mais déjà, cochez la date sur votre calendrier, de manière à être présent. C'est tout pour cette fois-ci, mais je te remercie, Corwin, encore une fois.
C'est toujours un plaisir, ça change pas.
Deux fois de suite, il a fallu que tu fasses du gros travail.
Oui. Bah moi, du coup, maintenant, j'attends avec impatience de faire un trois voix avec Benny.
Ouais, bah avec un peu de chance, le mois prochain.
Ouais, j'espère.
S'il n'a pas encore un petit problème comme cette fois-ci. On vous laisse, on vous dit au mois prochain, et d'ici là, bah vous savez quoi lire, vous savez quoi acheter. Faites-vous plaisir.
Salut les gens, à bientôt.